Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de la séance du dimanche. Nous sommes en février 2022 et nous devrions parler de Devdas, cette comédie musicale bollywoodienne que nous vous annonçons depuis des mois, depuis fin octobre. Mais pourtant, Adeline n'est pas là, pour des raisons qu'on taira, mais vous pouvez vous en douter, étant donné le pic épidémiologique auquel nous sommes confrontés. Donc ce soir, au lieu de parler de cinéma bollywoodien et d'icônes indiennes telles que Shah Rukh Khan, nous allons parler un peu de tout. Nous allons partir un peu en freestyle, comme dirait Louis, ou en nouvelle vague de la radio. Comment allez-vous déjà, Louis, Lucas ?
Bah très bien.
Ça va, prêt, enfin pas prêt du tout en fait, émission non préparée, nous tenons à en avertir nos auditeurs, mais j'ai très hâte de parler de tout et de rien de cinéma, ça fait du bien parfois une conversation un peu plus comptoir de bar. Voilà.
Et derrière le comptoir, on remercie d'ailleurs notre magnifique barman Victor qui est de retour après une petite... Un petit mois de vacances.
Oh bah écoute, mais merci de me qualifier de barman, c'est très très artistique.
Mais j'étais sûr que ça te plairait. Et tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire aucun sujet, nous allons parler d'un acteur qui malheureusement nous a quittés en janvier dernier.
Vous seriez presque nostalgique d'une époque que vous n'avez pas connue en fait, c'est ça ?
Tout à fait. Mais c'est ça qui est beau aussi avec mon métier, c'est que ça me permet de me replonger dans des périodes de l'histoire que je n'ai pas connues. Alors après, je ne parle pas forcément de films d'époque qui nous ramènent. Mais par exemple, avec Saint-Laurent, ce qui était jouissif, c'était de revivre cette époque. Ouais.
Et vous disiez la façon dont le monde évoluait. Vous êtes à l'aise avec l'époque aujourd'hui, l'époque des réseaux sociaux, des smartphones, de Cyril Hanouna, je ne sais pas, par exemple ?
Pas du tout. Pas du tout. Je suis un peu une vieille âme dans un corps de jeune. J'accroche pas du tout à... En fait, j'ai même une extrême méfiance, une peur, je dirais, de toutes ces choses-là que vous venez de citer. Oui. Après, ça peut être aussi un handicap. Hein. Je le vis parfois comme ça. Mais pour l'instant, tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, toute cette société du raccourci, du commentaire, de la consommation à outrance, tout le monde recherche le buzz au final. Et non, ça ne me correspond pas du tout.
Et vous aurez sûrement reconnu donc la voix de Gaspard Ulliel, qui a été interviewé par le Figaro lors du Festival de Cannes 2016, où il présentait juste la fin du monde de Xavier Dolan. Donc messieurs, est-ce que vous avez un souvenir qui vous vient quand on parle de l'acteur Gaspard Ulliel ?
Oui, j'ai des souvenirs, mais je commencerai par dire que ça fait un peu malheureusement partie de ces acteurs dont on découvre, enfin on découvre pas, mais dont on connaît vraiment la valeur une fois qu'il est mort, et d'autant plus quand il part prématurément, comme ça on se dit putain, c'est vrai qu'on avait quand même une sacrée pépite à ce niveau-là, que ce soit bon, on y reviendra, à son jeu d'acteur, mais surtout on va pas se mentir que Gaspard Ulliel c'est avant tout une gueule, comme il en est très rarement, comme il en est peut-être tous les 50 ans. C'est une beauté quand même assez atypique, c'est pas du François Civil. François Civil et j'aime bien François Civil, hein, et c'est quelqu'un de très beau évidemment, mais c'est une beauté assez normée, on va dire. Là où Gaspard Ulliel, évidemment, avec cette cicatrice qui, je crois, est l'héritage d'un croc de chien qu'il a mordu à la joue quand il avait 6-7 ans, entre ça et ses yeux, évidemment, bridés et très bleus, on a quand même une sacrée gueule qu'impose tout de suite un charisme un peu à la Mads Mikkelsen. Il se ressemble pas, mais c'est un peu, je trouve, le même type de charisme. Et puis, il y avait surtout aussi, moi, je trouve, cette voix que là, on a bien entendu avec l'extrait que t'as montré, et puis ce phrasé très lent, très un peu un phrasé un peu bourgeois. Et au final, quelques acteurs comme ça qu'on reconnaît avec leur phrasé, évidemment Jean-Pierre Léo. Et je trouve que Ulliel en faisait aussi partie, et c'est un phrasé qui l'a notamment aidé, je pense, à incarner, tu parlais d'un souvenir, à incarner Yves Saint-Laurent dans le Saint-Laurent de Bonello, qui est peut-être le meilleur film, je pense, dans lequel il a joué. Et voilà.
Louis, toi, tu as un souvenir lié à Gaspard Ulliel ?
Ouais, bah en fait, j'ai pas vu beaucoup de films de lui, finalement. Après, il a pas joué dans énormément de films non plus.
Il était assez rare, ouais. Ouais. Il choisissait assez...
Ouais, il cultivait sa rareté, et c'est ce qui en faisait un très bon acteur et qu'on appréciait voir à l'écran. En effet, je l'ai vu dans Le Saint-Laurent de Bonello. Je l'ai vu il y a longtemps dans Un long dimanche de fiançailles, de Jean-Pierre Jeunet, qui lui a valu le César du meilleur espoir masculin. Et je trouve que Lucas l'a très bien dit, en fait, on se rend compte de qui il était, de l'acteur qu'il était, au moment de sa perte, peut-être. Et Lucas évoquait son charisme. Moi, ce que j'aime aussi, c'est la subtilité qu'il incarne, la douceur, la sensibilité qu'il incarne, qu'on retrouve dans ses interviews, qu'on retrouve dans ses films, notamment dans Un long dimanche de fiançailles, bien sûr. et qu'on retrouve dans les hommages que les acteurs, les actrices du cinéma lui ont rendus ces derniers jours. Il parlait de lui comme quelqu'un de discret, sensible. C'est ce qu'il avait vraiment l'air d'être en dehors de la caméra, ce qu'il était aussi parfois dans certains films devant la caméra. Et on le voit aussi dans l'interview que tu, enfin l'extrait d'interview que tu viens de diffuser. Il a un certain recul avec le monde actuel. Il a l'air très posé. C'est quelque chose que j'aimais bien, que j'aime bien chez lui. Et parmi tous les hommages qui lui ont été rendus ces derniers jours, il y en a un qui m'a beaucoup touché, c'est celui de Sens Critique qui a réalisé un petit montage qui s'appelle Uliel à travers les yeux des autres. Ouais, tu l'as vu,
ouais,
Lucas.
J'ai vu ça,
et j'ai trouvé ça très bien,
c'est
fait
malin,
comme montage, très, très touchant. Et c'est vrai que là, j'évoquais en fait le regard que pouvaient porter les autres acteurs et actrices sur lui. Et dans ce montage, on se rend compte qu'en effet, à chaque fois, c'est beaucoup des jeux de regard qui sont échangés dans les différents films dans lesquels il a tourné avec Gaspard Ulliel.
C'est vrai que vous citez tous les deux Saint-Laurent, mais c'est aussi, je pense, le film le plus emblématique de Gaspard Ulliel, en tout cas que j'ai vu et peut-être que vous avez vu, parce que tu parles de sensibilité, mais c'est vraiment ce qui se ressent à travers ce personnage. J'ai pas vu le Saint-Laurent, le Yves Saint-Laurent, l'autre biopic là, qui était sorti en même temps, avec Pierre Niney, mais Pierre Niney, pareil, c'est un bon acteur, etc. Mais je trouve que pour incarner un personnage aussi emblématique que Saint-Laurent, Gaspard Ulliel, il a vraiment ce truc différent, un peu bizarre, dans le regard, dans le phrasé.
Je crois qu'il a voulu beaucoup plus se détacher de qui était Yves Saint-Laurent que Pierre Niney, qui s'est beaucoup plus raccroché au personnage historique.
Je connais quelqu'un qui connaissait personnellement Yves Saint-Laurent et qui dit que le film avec Pierre Niney est beaucoup plus proche de la réalité.
Après, la réalité. Aussi beaucoup plus fade, malheureusement. Enfin, moi, j'ai vu les deux à la suite. Et c'est clair qu'il n'y a pas, photo. Évidemment qu'il y en a un qui tente, je pense, une approche beaucoup plus historique et là, sur la véracité des faits, qui est celui de Jalil Lespère avec Pierre Niney. Mais on revient, c'est toujours quelque chose que je dis, mais on n'est pas dans le cinéma, dans un bouquin d'histoire ou quelque chose comme ça, où on devrait forcément se rapprocher de la réalité. Là où Bonello, avec Gaspard Ulliel, tente évidemment beaucoup plus de choses, et ça se ressent, enfin, au niveau du regard, ça n'a rien à voir. Ne serait-ce que visuellement ou dans le propos.
C'est un film qui est assez long, j'ai vu qu'il durait 2h30, mais étonnamment, je ne me rappelle pas vraiment de scène en particulière, mais je me rappelle vraiment de cette ambiance dans le film, de ces défilés, de vraiment cette... Il y a eu une exposition sur la mode dans la Cinémathèque, où il y avait justement des extraits du film et des costumes tirés du film, et vraiment ouais, cette texture que tu ressens dans le film, qui me fait penser aussi à un autre film sur la mode, qui est Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Et donc je trouve que oui, c'était vraiment l'acteur... C'est un rôle vraiment que je conseille aux gens s'ils veulent découvrir Gaspard Ulliel, qui n'était pas qu'une icône de mode, comme on a aussi beaucoup plus loin dans les
sûr.
Hommages.
Non, c'est sûr, c'est pour ça que je disais que c'était un physique, et c'est vrai, on va pas se mentir, mais c'est aussi un bon acteur tout en retenue, tu le disais, et qui a surtout joué avec quand même des grands noms, et la vidéo de Sens Critique le montre bien, malgré une filmographie assez réduite. Après moi, je vais pas mentir, je pense qu'il y a quand même pas mal de déchets dans sa filmo, mais c'est toujours des choix assez judicieux, des risques qu'il prend. Et moi, un film que j'ai adoré, peut-être mon préféré avec Saint-Laurent, dans lequel il a le rôle principal aussi, c'est Les Confins du Monde.
Bah, c'est ce que j'allais dire.
De Guillaume Niclou, que j'ai vu le jour de sa mort. Hein. Enfin, j'ai un peu rattrapé cette partie de sa filmographie. Et tu voulais en parler, peut-être?
Oui, c'est un souvenir assez lointain, parce que je l'avais vu à la quinzaine des réalisateurs en 2018, justement. Et c'est vrai que avant, je me faisais quand même la réflexion sur le Vietnam, donc la guerre du Vietnam, qui est cette guerre qui dure presque 30 ans, parce qu'on est sur le billet, mais l'Indochine, en fait, que la première partie de la guerre du Vietnam, donc la guerre française de l'Indochine. Et je m'étais dit, parce que j'adore les films sur le Vietnam, que les Américains sont très forts pour parler de leur histoire, presque en instantané, 5 ans après la guerre du Vietnam, ils arrivent à produire un chef-d'œuvre sur la guerre du Vietnam. Et la France, je trouve qu'il y avait eu des films comme la 517e section, etc., ou bien Dien Phu, qui parle de l'Indochine, mais il n'y avait vraiment aucun film qui arrivait à incarner et à faire ressentir ce que pouvait être l'Indochine. Et Les Confins du Monde, je trouve que c'était vraiment ça, c'est un film sensible, encore une fois, sensitif, où vraiment que ce soit tout est poisseux.
Poisseux, c'est ce que j'allais dire.
C'est vraiment tout peg, comme on dit chez moi.
On s'y sent mal, quoi.
Et je me rappelle juste vraiment de scènes avec des insectes, etc.
Des cadavres. Des cadavres, ouais. C'est très graphique et c'est très sensoriel. Ouais. Et puis des scènes un peu rêvées où la musique est complètement barrée et n'a rien à voir avec une musique à laquelle on pourrait s'attendre pour ce genre de film. Et puis tout simplement, quand même l'interprétation de Ulliel, quoi, tout simplement.
Qui est habité, vraiment.
Qui est habité, et finalement, c'est une histoire de vengeance où il cherche une vengeance, mais finalement, on se rend compte très vite que c'est pas forcément l'aspect principal du film, puisqu'il va tomber amoureux aussi. Et puis il y a évidemment Depardieu en rôle de sage, mais
non, c'est un film complet, si vous qui m'a bien. C'est Depardieu, il a vraiment juste 3 scènes, non, dans le film.
Oui, oui, oui.
C'est toujours en plus au même endroit, alors il a dû tourner 3-4 jours.
Oui, oui. Et... je suis même pas sûr qu'ils se soient beaucoup rencontrés, en fait, parce que ouais. Les scènes où ils se voient, c'est du champ contre champ, où ils apparaissent peut-être une fois dans un même plan, donc...
Et pourtant, Miguel arrive quand même à exister face à monstre de cinéma, ce qui est ça qui est assez incroyable.
Et Nicolas, tu parlais de Pierre Niney, forcément, dans l'autre, enfin dans Yves Saint-Laurent, l'autre film sur Saint-Laurent. Lucas, toi, t'as évoqué François Civil. Et finalement, ça m'étonne pas qu'on cite ces noms aux côtés de celui de Gaspard Huguel, parce que sa disparition est d'autant plus regrettable que je trouve qu'il s'était imposé comme l'un des jeunes talents français les plus appréciés à l'étranger, et on le voit bien dans les hommages qui lui ont été rendus, c'est des hommages aussi internationaux de la part d'acteurs, d'actrices internationaux.
Je crois d'ailleurs qu'il avait, bon, c'est une rumeur, mais qu'il avait prévu de jouer dans la prochaine série Marvel.
Oui, non, apparemment.
Avec Oscar Isaac.
Moon Knight.
Ouais. En fait, c'est une fuite quoi, qu'il y a eu sur IMDB, mais on ne sait pas encore si c'est vraiment officialisé.
Et des,
donc, peut-être que ce serait sa dernière apparition. Un peu dommage peut-être que ce soit dans un Marvel. À moins qu'il y ait eu d'autres films... qui sont encore en montage, dans lesquels ils jouent, on verra.
Je sais pas, mais il y avait des articles de sites américains qui disent Marvel actor, Marvel actor is dead.
Oui, c'est terrible ça.
D'accord. Ouais, c'est... Mais bon, n'oublions pas que le dernier film de Orson Welles, c'était la voix off de Megatron dans le dessin animé Transformers, n'est-ce pas ? Je vous propose qu'on passe maintenant aux sorties des films qui sont sortis en janvier, peut-être pour continuer à recommander des films qui nous ont plu. Donc on espère que vous aurez déjà eu envie de voir Saint-Laurent et les confins du monde. Et là, on va parler de films. Il y a eu beaucoup de sorties là, qui sont sorties en l'espace d'un mois, entre fin décembre et fin janvier. Là, on enregistre mi-janvier. Donc, je vous propose un petit medley pour se replonger dans l'ambiance de tous ces films.
Mais est-ce possible que cette città ne te fasse rien de rien à raconter ?
Lequel de mes grands frères? J'en ai 3.
C'est avec l'oseille de vos petits business à la con que vous comptez faire vivre tout le monde ici?
Comment tu t'appelles?
Chantal.
Super.
Alors comme ça t'es peintre?
Non, je suis rien du tout, c'est un interrogatoire hein.
Tu veux venir chanter avec nous?
This is fate that brought us together. But she's lived it 10 times or more. Our roads took us here. She could spit in the
eyes of fools. You're not my director.
Done my research. Know your case. They put you in hell. They made you the fall guy. You might want a piece of what I'm gonna do.
What is that?
Set things straight.
Do you know who my girlfriend is?
Barbra Streisand?
Barbra Streisand.
Sand.
Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like beaches.
Barbra Streisand?
No, like Streisand.
Sand.
Je ne sais pas si vous avez reconnu tous les films de cette bande-annonce. Je suppose que oui. Bah, commençons avec toi, Louis. Est-ce qu'il y a un film en particulier avec lequel tu aimerais commencer?
Bah, il y en a beaucoup dans cette bande-annonce, il y en a beaucoup qui me plaisent, mais là le dernier extrait qu'on a entendu c'est ça vient de Licorice Pizza, le Paul Thomas Anderson qu'on attendait tous dans notre émission récapitulative de 2021, on parlait de nos attentes de 2022 et en effet, on parlait de ce film de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, ça fait même longtemps qu'on l'évoque, je me souviens qu'on l'évoquait au moment de parler de ces réalisateurs dont on attendait beaucoup Et aux côtés de Nolan, notamment, on disait que c'était parmi les meilleurs réals actuels. Et je trouve qu'il confirme vraiment son statut avec Licorice Pizza, qui retrace le parcours de 2 adolescents dans la Californie des années 70. C'est à peu près ça, le pitch du film.
Il y a apparemment de scénarios très élaborés ou très importants.
Hein. Et c'est ça que j'ai aimé, justement. Moi, j'aime bien les films au scénario très épuré. Là, donc, on suit le parcours un peu effervescent de ces 2 adolescents pleins d'énergie. Je trouve déjà que moi, la Californie des années 70, elle est bien rendue dans ce film. La reconstitution est vraiment très bonne. On n'a pas du tout de mal à s'y plonger. Au contraire, on s'y plonge très facilement. Je parle de parcours parce qu'en fait, ces deux adolescents, ils vont vivre une histoire d'amitié, d'amour. Ils se courent après, ils se ratent, ils se cherchent. Et c'est quelque chose qu'en fait, qui est très bien retranscrit dans le film. Quand je dis se court après, c'est qu'il y a plein de scènes finalement où ils courent, où ils sont en mouvement. C'est quelque chose, je trouve, qui est très très bien retranscrit dans ce film. On voit des corps en sueur, des visages en sueur. Je crois qu'il y a, sur certaines scènes, ils n'ont même pas été maquillés. C'est un petit truc que j'ai lu. Et c'est ça que je trouve qui est super bien rendu dans ce film, c'est que c'est vraiment une fuite en avant de, deux ados.
La démarche du fils de Philip Seymour Hoffman, donc Cooper Hoffman, je crois, donc l'acteur principal, la démarche
qui joue
qu'il a
Gary, ouais.
C'est ça, la démarche qu'il a quand il court est trop marrante, quand on dirait un bœuf comme ça. Enfin, il a un physique déjà,
Mais j'aime bien cette mise en avant des corps, justement, et des deux physiques qui sont pas forcément les plus gracieux, mais qui sont rendus beaux à la caméra.
En fait, ils sont normaux.
Parce qu'ils sont naturels.
C'est ça, quoi.
Le premier truc que j'ai dit en sortant les films, c'est que ça a eu du bien aussi de voir des gens normaux dans les films. Ils ont pas les dents forcément toutes droites, quoi. Ils ont pas toute la dentition à Tom Cruise.
Pourtant. Il y a deux ans, Tarantino faisait le film à la même époque à Los Angeles dans les années 70, et c'est un excellent film, mais il prend DiCaprio, Brad Pitt, qui sont considérés peut-être comme les deux plus belles personnes au monde. Enfin,
Margot
Robbie, ouais. Donc, c'est vrai que là, c'est bien aussi de voir des physiques plus normaux, finalement.
Mais c'est vrai que difficile de pas penser à Once Upon a Time in Hollywood quand on voit ce film. Film qui m'avait un peu déçu quand je l'avais vu. Donc, depuis, je me dis, faut que je le revoie, parce qu'il faut que je me remette dans l'ambiance de ce film, etc. Mais c'est vraiment un film d'époque dans le sens où ça essaie plus de retranscrire une atmosphère que de vraiment raconter quelque chose. En tout cas, ça raconte quelque chose à travers cette atmosphère.
Je crois que c'est très nostalgique, en fait, comme film.
Ouais.
Et toi, en plus, t'as eu la chance de le voir une projection sur pellicule, non?
Très, très décevant, car nous arrivons... justement, il y avait Adeline qui n'est pas là à ce cinéma. Nous arrivons pour réserver des places aussi d'autres personnes. Donc,
on s'était pris d'assaut.
On arrive... Non, vraiment, on arrive vraiment... On arrive à 19h pour la séance de 20h30. Et nous dit non, revenez dans une demi-heure, parce que les cartes UGC... on peut pas réserver plus d'une heure à l'avance. On arrive pile une heure à l'avance et nous disent « Ah oui, mais en fait, c'est pas en 70 mm ce soir. Oh » Le vendredi, ce n'est pas en 70 mm, donc je n'ai pas vu, d'accord, malheureusement, ce film.
Mais je pense que ça ajoute un certain charme, parce que déjà, on le voit au grain de l'image que ça a été tourné sur pellicule, et ça renforce justement cette reconstitution de la Californie des années 70.
Et pourtant, je lisais un truc très juste sur Twitter, c'est qu'en fait, il arrive à nous rendre nostalgiques d'une époque que ni vous ni moi n'avons connue, ni aucun Français, je pense.
Justement, je parlais juste avant d'enregistrer l'émission du film avec quelqu'un qui est enregistré juste avant, qui fait l'émission La Relève sur Radio Campus Paris, et qui me disait, c'est marrant, j'ai l'impression que ça parle plus aux gens de votre génération que de la mienne qui avons connu cette époque. Est-ce que vous êtes nostalgique d'une époque que vous n'avez pas connue?
C'est ça.
Justement, et c'est ça qui est très fort dans le film.
C'est vraiment un milieu où pendant... Ça dure quoi? 2h30 aussi, ce film? Où tout coule de source, tout se passe bien, tout est beau, même les déceptions sont un peu heureuses, j'ai l'impression. On veut juste passer à la suite. Et ça fait du bien.
En fait, j'ai l'impression que c'est une Amérique qui n'a pas de recul et qui ne pense pas justement au futur. Et c'est une époque américaine qui est bien retranscrite aussi par le personnage de Gary. Lui, donc, au début, il est acteur, un ado acteur dans une série de télévision populaire. Après, il est entrepreneur, toujours à essayer de trouver le dernier coup, etc.
Alors qu'il a que 15 ans.
Et je trouve qu'en fait, il représente bien son personnage. Il est très représentatif de cette Amérique qui célèbre l'initiative individuelle, qui célèbre le capitalisme sauvage sans penser du tout aux conséquences du lendemain. Je trouve qu'il y a... Tu le dis là, il y a tout à fait le genre de choses qu'on retrouve dans le film.
Et étonnamment, en sortant du film, je ne suis pas du tout déçu, genre je suis très content de ce que j'ai vu, mais c'est peut-être un des moins bons Paul Thomas Anderson, mais ça reste un excellent film. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est un film qui, ça fait du bien aussi, c'est Paul Thomas Anderson, son dernier film en date, c'était Phantom Thread, qui est un film qui esthétiquement est un sommet de mise en scène, c'est le genre de trucs qu'on voit rarement. Puis même de toute façon avec Boogie Nights, qui était que son deuxième film à l'époque, je crois qu'il avait 25 ou 26 ans, il avait 2 ou 3 ans plus que nous, et déjà il signe un film qui était niveau réalisation qui était presque parfait, quoi, qui était incroyable. Et là il arrive à être, il est beaucoup plus dans la retenue, il est beaucoup moins dans la démonstration.
C'est ce que j'allais dire, il est beaucoup moins démonstratif. Moi je serais incapable de faire un classement des films de Paul Thomas Anderson, je les trouve tous très bien, peut-être un peu plus de retenue sur Punch Drunk Love, mais encore si je le revoyais là maintenant, j'aimerais bien. Mais c'est clair qu'on est beaucoup moins dans la démonstration qu'un Phantom Thread ou je sais pas où il peut être très
ou Magnolia.
Magnolia ou There Will Be Blood, où là évidemment que c'est quelqu'un de virtuose et qui te le montre quasiment à chaque plan. Et là dans Licorice, effectivement, il est beaucoup moins démonstratif, il se fait plus discret, mais d'un autre sens, c'est parfois de la virtuosité qui se voit moins, et c'est en ce sens-là où je trouve que pour moi, c'est peut-être un de ses meilleurs, mais encore une fois, je ne vais pas les classer. Mmh. C'est-à-dire que des fois, t'as des plans séquences, tu te rends même pas compte que c'est tu te rends même pas compte que c'est des plans séquences. Il sait toujours où placer sa caméra. Toute la scène, et on en reparlera des personnages secondaires, mais toute la séquence avec Bradley Cooper.
Oui.
Cette scène de camion, les silences dans la nuit,
c'est jouissif.
C'est, ouais, c'est génial.
Bah, justement, ouais, c'est, il y a des, parce que c'est un film qui est très libre, qui est très cadré exquis presque.
Ouais.
Il écrit seul, mais c'est, on dirait presque de l'impro tout le long, un peu comme cette émission. Hein. Et pourtant, il y a quelques scènes qui ponctuent vraiment le film.
Il y a un climax,
Il y a un climax, évidemment. Il y a deux climax, même.
Oui.
Il y a une scène avec Sean Penn, déjà, qui est incroyable, où Sean Penn joue, alors, joue un acteur qui n'existe pas, mais qui est inspiré d'un autre acteur qui a le même nom, mais j'ai oublié le nom de cet acteur. Où Sean Penn joue un vieux beau, un acteur qui raconte vraiment tous ses grands faits et gestes et qui veut faire une cascade en moto. Et c'est vrai que cette coupure dans le film où tout le monde va autour du feu pour voir Sean Penn qui va faire cette cascade et tout, ça permet de faire respirer, d'avoir l'impression qu'on est dans un autre film avant de revenir dans le film d'avant.
Et ça fait la même chose avec les scènes, justement, Lucas en parlait, avec Bradley Cooper en petit ami de Barbara Streisand.
Ouais, petit ami coiffeur de Barbara Streisand et petit ami, je crois, par la suite.
Mais qui sont...
John Peters, qui a vraiment existé et qui a vraiment été aussi fou
mais,
que ça.
Mais des scènes qui sont... Oui, c'est de la folie et c'est absolument jouissif de voir ça. Et en effet, comme tu dis, ça aide à continuer à être dans le film, à respirer, à avoir des respirations. Et finalement, du coup, tu vois pas les 2h15 passer parce qu'il y a ces scènes aussi qui viennent... te permettre de respirer. Ouais. Et un autre élément, je trouve, qui nous aide à faire passer ces 2h15 en 1h peut-être, c'est la bande-son, qui est très riche.
On a pas parlé,
Y a du Nina Simone, il y a du David Bowie, je sais que t'es très friand de David Bowie.
Il y a une scène vraiment de voiture arrêtée, parce que c'est la passe de la panne, c'est 1973, donc la crise du pétrole. Oui, il y a David Bowie qui retentit, j'étais pas oui. Toujours, je veux bien.
Je crois que Lucas, John Lennon, je crois, enfin ça.
Je crois que Lucas avait une musique qui t'a particulièrement plu.
Ouais, bah, du Paul McCartney, on peut peut-être la mettre.
Bah écoute, Victor, c'est parti. Écoutez toujours la séance du dimanche sur Radio Campus Paris ou en podcast. Nous avons écouté Let Me Roll It, qui était un morceau tiré de la bande-son de Licorice Pizza, interprété par Paul McCartney. Et donc actuellement on parle des sorties cinéma récentes, donc, qui sont sorties à peu près en mois de janvier 2022. Et du coup je crois que tu avais un autre film à nous recommander, qui est sorti le 29 décembre, donc vraiment à la jonction de deux années.
Ouais, bah on parlait de la qualité d'écriture des personnages avec Paul Thomas Anderson, et c'est vrai que dans tous ces films, on aura beau parler de mise en scène pour le cinéma en général, parler de mise en scène, de machin chose, de scénario, ça, on est avant tout face à des personnages à chaque fois, face à des acteurs avec des personnages, et donc il faut quand même pas oublier que c'est central. Et oui, il y a un film effectivement que j'ai vu qui est sorti en fin d'année 2021, mais dont on n'avait pas pu parler dans nos tops de l'année parce que on a enregistré l'émission avant, mais qui fait une rentrée furtive dans ce top et immédiate, c'est The Card Counter de Paul Schrader. Paul Schrader, pour ceux qui savent pas, c'est en gros le scénariste de Martin Scorsese, mais évidemment pas que, hein, c'est aussi un réalisateur qui a fait beaucoup de films.
Oui, fait, oui.
Je crois qu'il y avait une petite pastille sur Paul Schrader par un de nos chroniqueurs ici présents.
C'est possible. C'est possible, c'est très possible.
Sur l'écriture de Taxi Driver.
Exactement. Je crois que c'est un chroniqueur qui a une très belle voix d'ailleurs, quand on a parlé.
C'est possible.
Et donc oui, Paul Schrader, il a écrit... Pour Scorsese, je crois qu'il a écrit seulement 3 films. En gros, il a écrit Taxi Driver, Raging Bull...
La Dernière Tentation.
Ah oui, c'est vrai.
Et il doit y en avoir un autre.
Celui avec Nicolas Cage, l'ambulancier, là, j'ai plus le nom en français. Bringing Out the Dead.
Okay.
C'est un remake de Taxi Driver avec des ambulances, en gros. Donc, Paul Schrader qui a aussi réalisé des films tels que Mishima, Je sais pas si tu l'as vu.
Non, c'était mon premier Paul Schrader.
Ok, bah, je te laisse continuer sur The
Ghost Hunter. Non, pas de soucis, mais Scorsese et Schrader qui sont toujours très proches, hein, puisque Scorsese est producteur de The Ghost Hunter, qui en fait raconte l'histoire d'un type qui est joué par Oscar Isaac, acteur aussi là très prometteur. Enfin, il est déjà confirmé, hein, mais je pense qu'on va énormément le voir un peu.
Mais on ressent son potentiel.
Ah oui, c'est même voilà. Plus qu'un potentiel là. Et là, pour moi, c'est complètement confirmé. Donc, il joue un personnage qui s'appelle William Tell, qui est un ancien militaire qui a fait de la prison, qui sort de prison et qui joue au poker. Il est super fort au poker, mais il va jamais devenir une star. Il veut rester voilà, dans l'anonymat. Sauf qu'un jour, t'as un jeune homme qui vient le voir avec un projet de vengeance puisqu'il veut tuer un homme qu'ils ont en commun. Enfin, ils ont un lien commun avec cet homme. Je vais pas en dire plus, mais ça part juste de ce postulat-là. Et moi, je pense que c'est peut-être le meilleur personnage de cinéma que j'ai vu de l'année 2021, ce personnage de William Tell, pour la simple et bonne raison que, un peu à la manière de, vous savez, dans les films d'horreur, on dit souvent qu'un bon méchant, c'est un méchant qu'on voit jamais, et puisqu'on s'imagine plein de choses. Là, on le voit tout le temps, l'acteur, mais il est tellement neutre dans son jeu, tellement impassible, qu'en fait, c'est plutôt à nous en tant que spectateurs qui allons lui mettre des sentiments dessus. On sait jamais vraiment ce qu'il pense en fait. Et j'ai lu après que Paul Schrader est un immense fan de Robert Bresson, donc ce cinéaste français des années 50-60, qui était justement caractérisé par son épure en fait, le fait de le non-jeu en fait, ne jamais exagérer la chose. Il a d'ailleurs écrit un super livre qui s'appelle Notes sur le cinématographe, qui est une suite d'aphorismes sur le cinéma qui est passionnant. Et tu ressens complètement ça là-dedans dans The Card Counter, c'est-à-dire que t'as ce personnage mutique. Et moi, j'ai eu une interprétation vraiment très personnelle du film. Je m'en suis rendu compte en discutant après avec des gens qui l'avaient vu. C'est-à-dire que le personnage donc de William Tell, de Oscar Isaac, j'ai pas eu du tout la même lecture qu'avec d'autres personnes. Je lui ai prêté des pensées qui n'était peut-être pas celle que Paul Schrader voulait avoir, mais ça je m'en fiche, hein. Une fois que le film est sorti, moi j'en fais ce que je veux en tant que spectateur. Et c'est ça que je trouve très bien, c'est que c'est à nous en tant que spectateur, on est actif à complètement essayer de savoir ce que ce personnage est un peu mutique, il est un peu fou franchement, parce que
ouais, oui.
Il met quand même des draps, il va dans les chambres d'hôtel et il met des draps partout pour camoufler sa présence, enfin, c'est vraiment un personnage assez hors norme. Alors toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Ouais. J'ai bien aimé le film, mais j'ai un peu plus de retenue que toi. Oui, c'est vraiment un écrivain, j'allais dire, un scénariste qui mise tout sur l'écriture des personnages, et vraiment, il est extrêmement fort, même dans la direction d'acteur. C'est vrai que ce personnage d'Oscar Isaac, je trouve que c'est vraiment ce qui fait tenir le film. C'est passionnant de bout en bout. Même les personnages secondaires, la femme qui organise les tournois, le jeune, et surtout évidemment Willem Dafoe, qui est le grand méchant du film, et que j'avais vu la veille dans un autre film dont on parlera sûrement plus tard, mais qui n'est pas du tout de la même qualité. Et toute cette ambiance des tournois de poker, pas clandestins, mais des vrais tournois, mais toute cette ambiance un peu glauque, comme un vidéoclub d'Amazon, tu vois, où il n'y a plus de DVD, mais cette ambiance vraiment aseptisée, en fait, et volontairement neutre, j'adore vraiment explorer tous ces lieux fermés, on voit jamais l'extérieur pratiquement, je crois qu'il y a deux ou trois sur la voiture, c'est tout.
Un peu, ouais.
Mais j'ai beaucoup aimé le film jusqu'à, on va dire, au bout d'un moment, je trouve qu'il se répétait un peu, et surtout à partir d'un petit, une petite évolution des personnages vers la fin. On ne peut pas trop en dire, mais ceux qui ont vu le film ils comprendront. Je trouve que c'est un peu dommage, que c'est un peu convenu. Et Paul Schrader, il a déjà fait ça tellement de fois qu'il n'a pas non plus la maestra d'un Scorsese, dans sa réalisation en tout cas. Et donc j'étais un peu déçu par cette fin qui est un peu attendue, quoi. Je sais pas ce que t'en penses.
Bah après, j'ai vu que ce film, il paraît que tu parlais de thématiques qui revenaient, et c'est sûr que je crois que c'est vraiment le cinéaste de la rédemption. Enfin, je crois que c'est le mot. D'ailleurs, il a quand même écrit la dernière Tentation du Christ, où il est aussi question de vachement de rédemption. Mais je comprends ce que tu dis, mais moi ça m'a vraiment happé. Et au-delà du personnage, un travail sur la musique remarquable, et surtout une scène du milieu. Tu vas avoir une scène très colorée en extérieur pour le coup, où il va donc avec cette femme. Se balader dans une espèce de, je sais pas, un parc lumineux, je sais pas comment appeler ça.
Il y a plus ou moins la même chose au Jardin des Plantes à Paris actuellement, avec des lumières partout.
Et à un moment, je croyais que c'était un peu de la CGI, quelque chose de numérique, et c'est assez incroyable comme scène avec une musique magnifique. Tu sens une petite part d'humanité dans ce personnage complètement impassible, et je trouvais que c'était une des scènes fortes, en comptant aussi ce dernier plan que je trouve magnifique, mais bon. je peux tout à fait comprendre qu'on ne soit pas touché par ce genre de cinéma très épuré, mais moi pour le coup ça m'a complètement convaincu et j'ai hâte de regarder le reste de sa filmographie. Il paraît que son dernier film, Sur le chemin de la rédemption, on parle encore de rédemption, là c'est
avec Nicolas Cage, non?
Non, c'est avec Ethan Hawke.
Ah ok.
sur un prêtre alcoolique, je crois, sur le chemin de la rédemption, apparemment, donc j'ai hâte de voir ça.
Parce que c'est vrai que c'est marrant, c'est un cinéaste, enfin c'est pourtant un grand nom, Paul Schrader, avec tout ce qu'il a écrit. Il y a un compte Twitter qui met tous les posts Facebook de Paul Schrader, qui est très marrant, parce que c'est un gars qui juge tout, qui s'en fout, quoi, il doit avoir 80 ans. Et c'est un cinéaste dont beaucoup des dernières productions sont sorties directement en vidéo, sont passées inaperçues. J'avais vu Dog Eat Dog, la première quinzaine de réalisateurs en 2016, enfin la première que j'ai faite en 2016, où c'était une petite série B avec Willem Dafoe et Nicolas Cage. Et pareil, c'était très réussi, mais c'était un film qui passait totalement inaperçu. Donc c'est au moins très bien que le film ait pu être distribué en salle, surtout à cette période, qu'un film comme Card Counter, qui est un petit film un peu exigeant, mais qui peut trouver son public, puisse trouver le chemin des salles, c'est assez impressionnant.
Puis c'est quelqu'un de très passionnant à écouter, Paul Schrader, et je recommande juste pour terminer une petite conférence qu'il a eu, je crois, au Forum des Images, ou à la Cinémathèque, je sais plus. Mais c'est trouvable sur Internet et sur YouTube, et il parle juste de l'écriture d'un scénario, de comment lui conseille à ses élèves d'écrire un scénario, et tu vois que c'est une approche très différente de ce qu'on peut lire dans des bouquins, et tant mieux, parce que sinon, on va tous se retrouver avec les mêmes scénarios, les mêmes schémas, et là, il brise totalement ça, et c'est hyper intéressant à écouter.
En parlant de même schéma, je pense qu'on peut peut-être parler d'un film qu'on a vu tous les deux, Louis, que tu n'as pas vu, Lucas, je crois, qui est le plus gros succès de l'année, enfin des dernières années, Spider-Man No Way Home. Qu'en as-tu pensé, mon cher Louis?
Pas grand-chose. Pas grand chose, ouais c'est ça, en fait on est en plein là-dedans, dans le même schéma, enfin c'est une production, oui, très, comment on peut dire ça,
c'est un peu convenu. De dire McDo, mais c'est du fast-food.
Exactement, c'est de la consommation, du coup, comme dirait Scorsese, ça fait du bien de temps en temps, le problème c'est que c'est répété. Mais de temps en temps ça fait du bien, et là je l'ai vu à l'approche des fêtes de Noël avec mon frère, ça nous a permis de passer un bon moment devant ce film qui finalement moi a réveillé un peu de nostalgie. Je sais pas à quel point je peux spoiler ou pas, mais il y a prescription, ça fait maintenant
deux mois. Le film a fait le 2 milliards de recettes.
Revoir Tobey Maguire, ça fait plaisir,
évidemment que
Docteur Octopus, ça fait plaisir, enfin
revoir des personnages qui viennent de films qui étaient au premier degré très bons,
Sam Raimi qui était excellent, parce que à l'époque c'était pas le MCU et que du coup on écrivait vraiment les films de super-héros comme des thrillers avec des personnages construits, avec des histoires dans l'histoire. Là je trouve que pourtant il dure deux heures et demie, et finalement il y a rien qui est développé.
Alors oui, c'est fou parce que pareil, en fait comme toi, c'est un film, sur le moment c'est un film qui fait du bien, on va pas se mentir. Je l'ai vu là aussi avec Adeline, après genre c'est un film que j'aurais dû voir avec de la famille, mais ça a été reporté, bref il y a eu plein d'événements comme ça à Noël. Et je l'ai enfin vu en vendredi soir, et dans une salle qui était en folie. Les gens applaudissaient.
Par contre, ça m'a fait plaisir de voir ça. Genre applaudir. Après, je sais que c'est un peu le cas. Je vais pas avoir beaucoup de Marvel, mais je sais que c'est un peu le cas parce que Marvel a une grosse communauté.
C'est rare. J'ai pas vu les derniers au cinéma, mais un tel engouement devant des scènes, je trouve que c'est assez rare.
Ah, je me suis dit, j'y vais pas assez voir des Marvel, mais je me suis dit que c'était peut-être le public Marvel qui était un peu comme ça, à se retrouver. On en reparlera. On a vu une interview très intéressante sur les événements au cinéma. J'ai l'impression que les sorties de Marvel font un peu événement parce que il y a un public qui vient uniquement quasiment pour ça, ou quasiment au cinéma que pour ça. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être en fait tous les films de Marvel où il y a un peu de folie dans la salle et tout, mais...
Non, c'est que là, vraiment, c'est... Le seul argument du film, c'est de réunir donc les trois Spider-Man et les méchants des précédents. Donc c'est un truc qui marche, qu'on est content de les voir. Au normalement, on se dit... Enfin, on s'entend à ça, j'étais, mais... Sérieusement, genre, c'est votre seule ambition, c'est juste...
Ouais. C'est du fan service.
C'est du fan service.
Plus de deux heures.
Mais c'est fou, il n'y a vraiment aucune ambition de réalisation. Il n'y a rien, c'est vide.
Les personnages sont pas travaillés.
Non, alors Lucas, pour donner une idée du scénario, il y a des méchants qui arrivent avec les Spider-Man des autres univers. Ils arrivent et le but du Spider-Man de l'univers Marvel, donc Tom Holland, qui est sympathique, mais qui est pas non plus incroyable, il dit je vais guérir les méchants. Et donc il y a une machine qui fabrique tout ce qu'il veut et il trouve des potions pour guérir les méchants pour qu'ils redeviennent pas méchants. Qu'ils redeviennent gentils. Et le but du film, c'est de juste donner une potion aux méchants pour les faire redevenir gentils. C'est ce niveau-là, quoi.
Et tout ça, ça tient parce que, au début, donc les méchants arrivent parce qu'il y a eu un problème dans le sortilège, lancé par Doctor Strange. Parce qu'en fait, Spider-Man dit, je voudrais qu'on oublie, je sais plus ce que
c'est, mais tout le monde sait qui
voilà,
c'est lui,
voilà.
Bref.
Et le truc, c'est que rien que là, s'il avait dit bah en fait, je veux qu'on oublie ce qu'a dit ce qu'avait dit je sais plus comment il dit
Jonah Jameson.
Voilà. Sur mon identité, finalement, le film pouvait s'arrêter là. Donc tu vois des incohérences dans l'écriture
et surtout
le scénario, tu peux le boucler dès le début en fait. C'est ça le problème.
Déjà qu'il y a aucune ambition de niveau scénario, enfin ça c'est même pas développer des personnages.
Non.
Mais à la limite, j'en sais rien, j'y connais, mais à la limite, un film comme ça, on s'en fout pas un peu des scénarios. Est-ce que les scènes d'action.
Justement,
non,
c'est ça,
non,
c'est
okay,
ça qui est terrible.
Bah,
c'est
non,
ça qui est rien. Terrible, c'est que vraiment, en sortant, j'étais, c'est pas possible. Genre, vraiment, faites des efforts. Vous avez genre un budget illimité. Et c'est, je te jure que la plupart des scènes, c'est juste des champs contre champs devant des fonds verts. Et c'est même pas de l'abus de dire ça. On dirait que les personnages, des fois, tournent pas dans la même pièce. Oui. Ils ont Tobey Maguire, ça fait plaisir de le revoir. Lui, ça sent qu'il est content d'être là. Et là, j'ai pris sûrement 10 millions de dollars pour venir ici. Je suis content, tout le monde m'aime bien. Et pourtant, ils arrivent à, enfin, c'est vraiment, il y a aucune cohérence, il y a pas d'effort de mise en scène.
C'est ce que je me suis dit en sortant du film, c'est que finalement, j'ai passé un bon moment sur le coup. Mais deux jours après, je l'aurais oublié parce que aucune scène ne m'aura marqué. Il n'y a pas une scène de combat ou quelque chose qui va me prendre aux tripes et me marquer, alors que oui, ils avaient totalement la place et le budget pour le faire. Et c'est tout à fait regrettable.
Ouais, c'est bien triste qu'il n'y ait pas de réalisateur derrière. Quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu du
Spider-Man. Oui.
J'étais très content d'avoir l'acteur de Daredevil, je ne sais pas si vous avez vu cette série,
oui,
Marvel.
Et pour le coup, bien senti le petit trait d'humour au moment
voilà, c'était, bon, c'était cette scène. Le meilleur du film, quoi, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez vu Matrix 4 ?
Non,
je sais pas. Non, bon, on peut continuer sur les blockbusters si tu veux, c'était un petit mot à nous dire. En plus, on a une émission sur les Matrix.
Oui, là, je sais pas. Matrix 4, à la fois, j'étais pas déçu, mais j'étais pas non plus. C'est un film qui est conscient de lui-même, en gros, qui se moque de lui-même, de sa raison d'être en tant que Matrix 4. Mais qui, au bout d'un moment, c'est parce qu'on est conscient que ce qu'on fait est cynique, que c'est forcément bien ce qu'on fait, quoi. Oui. Et du coup, là, à force de tout déconstruire, le film apporte plus rien, la mythologie est assez fade, et il y a une scène d'action à la fin qui est nulle. Alors que les Matrix, justement, les scènes d'action, elles sont incroyables, les chorégraphies sont bien. Là, Keanu Reeves ne se bat même pas du film. Il a abandonné. Il n'y a plus les scènes. Moi, j'aurais aimé voir des scènes vraiment, la scène de combat contre tous les Smiths.
Ouais. Est-ce qu'on les retrouve, les agents Smiths?
Ouais, mais c'est pas le même.
Ah, d'accord.
Et du coup, oui, c'est un film qui était intéressant, mais qui va être très très vite oublié. J'en ai bien peur.
Comme pour Spider-Man, du coup.
Comme pour Spider-Man, c'est ça. On va peut-être revenir
à des films qu'on
il y a
n'oubliera
des petits
pas,
films
qui vont nous marquer.
Dont on peut parler. Peut-être Mes Frères et Moi, que je n'ai pas vu.
Mais que Lucas
a vu,
que j'ai vu aussi, et que j'ai beaucoup aimé. Moi, c'est mon petit coup de cœur de ce début d'année, ma belle surprise, parce que c'est un premier long métrage pour Johan Manka, qui a réalisé le film. Pour le pitcher, rapidement, c'est on suit le personnage de Nour qui a 14 ans, qui vit dans un quartier populaire du sud de la France.
Je crois que c'est
7,
ouais.
Vers 7, ouais.
Encore 7.
Ouais. Mais je crois qu'on va en reparler un petit peu parce que je vois des similarités avec un autre film dont on a parlé qui se passe dans la ville de 7. Et du coup, son été, il est rythmé par les mésaventures de ses trois grands frères, la maladie de sa mère et puis des travaux d'intérêt généraux qu'il a à faire. Et justement, quasiment au début du film, donc je vous gâche rien, pendant un de ses travaux d'intérêt généraux, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique, qui anime un cours d'été sur le chant, et c'est une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons. Alors dit comme ça, on peut se dire, bon, on tombe un peu dans le cliché de l'art dans les quartiers populaires, l'art qui sert d'échappatoire, mais justement, moi je trouve qu'il évite ce cliché, parce qu'il parle de ça, mais il reste assez juste. Quand il en parle, il le pousse pas trop loin, ce cliché de.
Ouais, c'est ça. Il l'évite pas, mais il le fait bien. Quoi.
Voilà, il le fait bien.
Avec tendresse et
c'est
jamais lourd, quoi.
Exactement. Et je trouve que justement cette justesse dans le regard, elle se retrouve aussi dans la façon de filmer la vie dans les quartiers. Il y a pas de pathos, je trouve. C'est assez juste, c'est du réel pour beaucoup. Donc t'as des scènes qui peuvent être quelquefois dures, mais t'as aussi pas mal de scènes qui sont drôles. C'est un humour qui est souvent bien amené, et au final, du coup, on a un film qui est lumineux, moi j'ai trouvé. Y a des airs d'opéra chantés par Pavarotti, la musique de Marc Alifé là, qu'on a entendu tout à l'heure un petit peu dans le medley, qui viennent suivre le film tout du long et qui nous aident du coup à passer, je trouve, un bon moment. Et en plus, esthétiquement, moi je l'ai trouvé beau. Il est filmé en 16 mm, ce qui lui donne un certain charme. En plus, bon, t'as le soleil du sud de la France qui vient renforcer un peu cette belle esthétique et la luminosité de ce film. Et t'attaches beaucoup d'importance, toi, au, enfin, c'est logique, au personnage, Lucas. Et j'ai bien aimé, moi, la diversité de caractère des quatre frères, finalement. Et notamment, j'ai beaucoup aimé Mo, joué par Sofiane Kames. Et c'est là que je trouve, donc j'en reviens à ce que je disais au début, qu'il y a quelque chose d'un peu d'un personnage de Keshish dans Mektoub My Love, avec son slip jaune, qui fait le charmeur au bord de la piscine. Voilà, moi j'ai pensé à ça.
Oui, clairement.
C'est pour ça que voilà, au début je teasais un peu sur le fait que j'ai trouvé un peu de Mektoub, c'est dans ce personnage là en fait, et que j'ai vraiment adoré.
Ouais. Non mais je suis d'accord, c'est un film, et je m'en suis rendu compte après, mais qui coche vraiment un peu toutes les cases d'un film de social qui se passe en banlieue, avec le grand frère tyrannique, la drogue pour un autre frère, les flics, les méchants flics, et puis ce petit qui va trouver une issue de secours avec une bourgeoise et qui va se mettre à chanter, ça coche vraiment toutes les cases quoi. Mais pourtant à aucun moment c'est lourd ou prétentieux ou moralisateur. Peut-être un peu, mais franchement ça va. Et non mais c'est juste c'est émouvant, franchement, la scène de la mère. Bon, c'est très téléphoné, mais on sait qu'elle va arriver une demi-heure avant, mais ça je m'en fiche, hein, c'est juste beau. Et oui, donc tu as dit les acteurs, j'allais parler de Sofiane Kames, que j'avais vu déjà dans Chouf et Un Triomphe. Ouais. Et il faut qu'on le revoie plus souvent parce qu'il est très drôle, il passe le film en slip à faire de la musculation et à draguer. Et oui, petite démarche à la Aldo Machon au bord d'une piscine qui fait toujours plaisir. Donc je sais pas, je crois que c'est un de ses premiers films en plus.
C'est son premier long métrage en tout cas.
Son premier long métrage.
C'est lui, ça c'est l'acteur.
Non, Johan Manka. Ouais.
C'est ça. Donc c'est pas non plus pour moi un grand film, mais coup de cœur, ouais. C'est exactement le terme.
Une découverte quoi.
Coup de cœur de début d'année qui fait plaisir.
Il est resté quelques semaines, je crois.
Oh, il y a encore.
Il y a encore, je crois, 4 semaines.
Il y a 2 jours.
Donc, coup, si au moment de la diffusion d'émission, vous trouvez une séance.
Peut-être qu'au moment, non, peut-être pas. Mais si.
Ou peut-être, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Moi, je vous conseille vraiment d'y aller.
Bon, on va conclure ces sorties de l'année 2022 avec un film dont vous ne trouverez pas de séance au cinéma car ce n'est pas diffusé au cinéma. C'est La Main de Dieu. Donc, La Main de Dieu, évidemment, référence à Diego Maradona, en tout cas, je crois.
Armando Maradona.
Je n'y connais pas un foot, mais bon, ça, quand même, c'est un grand classique de la culture mondiale, j'ai envie de dire. Donc, je crois que tous les trois, on a vu ce film, qui est le nouveau film de Paolo Sorrentino, distribué directement sur Netflix, qui raconte la jeunesse de quelqu'un qui est d'un jeune homme dans les années 80, je dirais, qui est en fait Paolo Sorrentino lui-même, quoi, en Italie. C'est à Naples, Naples, ouais.
Parce que Maradona... Signe
au Napoli. Ouais.
Donc, et donc c'est une figure très lointaine qu'on croit croiser. En fait, c'est pas du tout un film sur Madonna. Je croyais que c'était un film sur Madonna. Pas du tout. Mais c'est une figure tutélaire, une sorte de truc en fond.
Il est un peu vendu comme un film avec la présence de Maradona, alors qu'au final, il y a une scène. Et il est un peu en fond, comme tu le dis. Il y a une présence un peu latente. Mais je te laisse.
Oui, ça sert le propos du film sur les idoles et le passage de la jeunesse à l'âge adulte, etc. Et donc ça raconte l'histoire de ce jeune homme qui est en fin d'adolescence, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui a envie de faire du cinéma, ses histoires avec ses parents, sa famille, etc. C'est surtout un film qui se déroule en Italie. Je trouve qu'un film qui se déroule en Italie a déjà des petits points d'avance, parce qu'il y a quelque chose, même pas d'exotique en fait, mais il y a une petite poésie en plus.
Mais
comme
même
tu pensais.
Une ville méditerranéenne tout court, hein, ça ajoute toujours du charme au film. Et oui, tu l'évoquais, cet adolescent un peu mal dans sa peau, qui vit avec sa famille. Et c'est ça, l'arrivée de Diego Maradona au club de Naples et en même temps des événements familiaux vont venir un peu bouleverser sa vie. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est un peu Paolo Sorrentino adolescent. Il a voulu projeter un peu lui de ce que j'ai vu sans être un autobiopic, si je puis dire. Il a ajouté des éléments un peu personnels. Et moi, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, c'est une fresque familiale et c'est un genre de film que j'aime beaucoup avec des personnages qui sont presque romanesques. On trouve la sœur qu'on voit jamais parce qu'elle reste enfermée dans les toilettes. On trouve la mère qui est toujours là pour faire des canulars. Le père qui est très doux, un peu drôle aussi. La tante, la figure de la tante qui est très très présente et qui va justement lui, en tant qu'adolescent, l'émoustiller un petit peu. Je trouve que c'est très bien fait justement le sentiment de passage de l'adolescence à la vie adulte, au moment où on se cherche et tout. Je trouve qu'il est très bien retranscrit dans le film. Et puis, j'ai beaucoup aimé les scènes contemplatives. Il y en a quelques-unes, notamment sur la mer de Naples ou même sur les bâtiments de la ville. C'est des choses, moi, qui m'ont bien plu.
Moi, j'ai un peu plus de... On en parlait avec Lucas avant l'enregistrement. J'ai Ouais, je sais pas trop quoi en penser, parce qu'à la fois, il y a des scènes qui m'ont beaucoup plu. Toutes les scènes en famille, les repas
à table,
où ils vont se baigner, là, sur un petit bateau, ils vont tous dans l'eau, etc. Ouais. Je trouve qu'il y a des scènes comme ça assez réussies, assez plaisantes. Mais, je sais pas, il y a un truc dans la réalisation, dans l'écriture des personnages qui, des fois, est à côté. Je trouve, enfin, j'arrive pas à adhérer totalement au propos, à comprendre des fois qu'est-ce que vient de faire des scènes ici. Je sais pas, c'est un style de film qui pourrait me plaire, mais je sais pas, c'est Sorrentino, ça m'avait fait pareil pour La Grande Débeillée, ça, qui est un film pareil, très beau, très esthétiquement assez poussé, etc. Mais je sais pas comment l'analyser, mais c'est un film qui me convainc pas totalement, alors que j'ai quand même passé un bon moment. C'est évidemment, c'est un film qui est beaucoup mieux réalisé qu'un Spider-Man ou etc. Ça va sans dire. Donc je passe un bon moment, mais je sais pas, c'est un film qui m'a pas totalement convaincu.
Non, bah exactement pareil. Sorrentino, qui est un peu, on va dire, le nouvel espoir du cinéma d'auteur italien. Mine de rien, c'est un cinéaste que j'ai un peu de mal à appréhender. Pareil, je passe jamais de mauvais moments. Je suis content de voir ses films, La Grande Nebbiolezza, tout ça.
Bah Youf aussi.
Ouais, Youf. Je suis encore plus mitigé.
Mais en fait, j'ai l'impression que c'est ça. On passe un bon moment à chaque fois devant ces films, mais c'est pas des films qui vont nous marquer après pour les semaines qui suivent, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est dommage, parce que je crois que c'est assumé, hein, il s'inspire vachement de Fellini et tout ça, et ça se ressent vachement dans La Grande Nebbiolezza, enfin, surtout dans La Grande Nebbiolezza. Et pourtant, Fellini, tu vois, ça m'a marqué un peu, enfin, le peu de films que j'ai vu de lui, j'ai toujours des images en tête, ça m'a marqué.
Mais là, est-ce que ça serait pas un peu son Roma, dans La Main de Dieu, non? Dans le fait d'essayer de parler un peu de lui.
Peut-être. J'en sais rien. Je savais même pas que c'était inspiré de sa vie, donc j'en sais rien. Mais pareil, la première moitié de La Main de Dieu, je me suis dit enfin, il réussit à me cueillir. Et puis vient ce retournement de situation du milieu du film où là, j'ai été beaucoup plus.
Qui est bizarrement amené d'ailleurs, ce que j'avais pas compris au début.
Ah ouais.
Ouais.
Ah,
ok.
Mais
c'est un peu brusque, c'est vrai.
Ouais, mais le fait que ce soit brusque me dérange pas, mais c'est tout ce qui s'ensuit après.
Oui. J'ai préféré la première partie du film aussi qu'à la deuxième.
Ouais. Mais bon.
Peut-être pour conclure, un autre film encore qui est sorti que sur une plateforme de streaming, sur Prime Video. Peut-être qu'on dira un mot sur la vidéothèque de Prime Video. Oui, c'est Spencer, le nouveau film de Pablo Hayden, qui est un des films que j'attendais le plus, mais que je n'ai toujours pas pris le temps de voir.
Bon, en même temps, au moment où on enregistre l'émission, il est sorti il y a 2-3 jours, donc tu auras tout à fait le temps de le voir, et je te le recommande vraiment vivement. Moi, j'ai adoré. Je sais qu'il n'a pas été très bien reçu par la critique, globalement, mais il trouve quand même son public, et il trouve quand même des gens qui l'ont apprécié, et j'en fais partie. Du coup, là aussi, pour le pitcher rapidement, ça se passe du 24 au 26 décembre 91, et Lady Diana, la princesse Lady Diana, rejoint la famille royale au domaine de Sandringham, c'est là qu'Adeline m'aurait peut-être aidé, pour les fêtes de Noël, et en fait, elle tente d'habiter une fonction qui lui correspond pas vraiment, on sent qu'elle est pas vraiment à sa place, elle est un peu irritée. Je pense que c'est à peu près ça la vie de Diana à ce moment-là. Là encore, il aurait fallu demander plutôt à Aldine, qui connaît bien la famille royale. Mais moi, j'ai été vraiment subjugué. Le mot est peut-être un peu fort, mais peut-être subjugué par la beauté du film. Déjà, l'image, elle est très laiteuse. Moi, j'ai bien aimé cette photographie-là dans le film. Et puis, c'est un film de fantômes qui convoque Shining par moment, j'ai trouvé. À la fois dans certains plans, pour faire comprendre la folie dans laquelle tombe Diana, pour faire comprendre des présences mystiques qu'on va retrouver tout au long du film, et puis à la fois pour donner ce sentiment d'hyper-solitude qu'on a à la fois dans Shining, et là qu'on retrouve dans Spencer, parce que c'est un magnifique film, moi je trouve, sur la solitude, sur la dépression, sur la paranoïa, sur le sentiment de rejet, de pas être à sa place. C'est des choses qui sont assez difficiles à retranscrire, je trouve, au cinéma, à vraiment nous faire ressentir. Et là, je trouve que le film y parvient parfaitement. Faut dire que c'est très bien interprété par Kristen Stewart. Ouais, ça aide. Elle est vraiment excellente dans ce rôle. Je pense que ça va lui valoir des nominations. Et c'est bien rendu aussi par l'utilisation de la musique, qui est très oppressante et qui rappelle là aussi pour moi un autre Kubrick, c'est Eyes Wide Shut. Et notamment lors d'une scène de dîner avec le collier de perles, donc là je vous l'avez pas vu, donc je vais pas rentrer plus dans les détails, mais quand vous verrez cette scène, vous y repenserez. Là, la musique est oppressante et l'image est un peu distordue. C'est un sentiment très étrange au moment du visionnage, Et cette musique oppressante, en plus, elle est très bizarre parce qu'elle est un peu jazz. C'est très particulier, mais tout ce que veut faire ressentir Pablo Larraín, moi, je me le suis pris en pleine face en voyant Spencer. Donc, franchement, allez-y.
Écoute, j'avais adoré, enfin j'avais bien aimé Neruda qui avait déjà fait quelques années.
C'est vrai que là il se lance beaucoup dans les biopics. Ouais.
Et surtout Jackie Kennedy. J'ai trouvé ce film incroyable. Alors il y avait des critiques mitigées dessus, mais.
Bah je pense que ça va faire ça un peu pareil passionné. Pour Spencer.
Toi tu l'as vu Lucas Spencer?
J'ai rien vu. J'ai vu Pablo Larraín. Mais tu m'as donné envie.
Oui. Eh ben merci Louis pour cette dernière recommandation de janvier 2021 en tout cas. Toi Victor, est-ce que tu as vu des films ou des recommandations de films sortis récemment que tu as envie de nous faire?
Je suis allé voir Kingsman Première Mission car je suis un grand fan de Pom Pom Boum Boum qui fait rigoler.
Je l'ai vu aussi.
Et franchement, j'étais déçu par le 2, j'avais adoré le 1. Et là, c'est une très très belle, un très bon retour je trouve. Et notamment tout l'aspect Première Guerre mondiale avec... parfois des gros aspects de... Alors, je pense pas que ce soit historiquement accurate.
Alors, je te confirme, après avoir fait 5 ans d'études d'histoire, c'est pas exactement ça.
Trop bizarre. mais franchement, t'as des très bonnes scènes de tension qui rappellent un peu du 1917, tu vois.
Oui, tout à fait.
Et c'était très 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 cool. Et toujours grandiloquent comme ce qu'on attend à Kingsman, quoi.
Mais je crois qu'il y a 4 suites qui sont déjà prévues.
4 suites.
Oui, ils vont faire 7 en tout.
Bah putain.
Et donc écoute, j'espère qu'on fera encore des émissions quand les suites sortiront, comme ça on en fera une spéciale avec toi.
Yes.
Et peut-être que c'est l'heure de passer au jeu, ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, Victor?
Aujourd'hui, c'est un jeu sur le thème de base de la comédie musicale. C'est... appelé sobrement le C'est qui qu'a dit. J'ai pris donc des citations dans ces comédies musicales. Vous allez devoir retrouver d'où elles viennent. Et si vous n'y arrivez pas, je vous ai pris quand même la date de sortie du film. Et ensuite, deuxième indice, le plus grand rôle féminin de cette œuvre cinématographique.
Eh bien, c'est parfait. Jouons après, évidemment, le jingle de l'émission.
C'est parti.
Nous allons jouer à un jeu.
Not a chance.
Avoir été avec les jeux, la dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre.
Oh putain, c'est un Trivial Pursuit.
1, 2, 3.
Je vous propose un autre jeu plutôt. Vous connaissez un jeu auquel je gagne toujours.
Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu.
Je peux perdre, mais je gagne toujours.
Alors, quelle va être la première citation que tu vas nous dire, Victor?
Et donc, pour cette première citation...
On doit donner le nom du film?
Vous devez donner le nom du film, exactement. Enfin... si vous y arrivez, parce que je pense que c'est un peu chaud sur sur celle-ci. Mais écoute, c'est pas plus mal parce que parfois vous y arrivez beaucoup trop facilement. La première citation est donc « Tous les coups, presque, les gens que je rencontre me disent qu'ils aiment ma voix, mais qu'ils aiment pas mon physique. » Réponse de l'autre personne, « Moi, je te trouve très belle. »
Skin in the Rain?
Non.
Non, les parapluies de Cherbourg.
Pas du tout.
Ouais. Je vais le dire à chaque fois, il va finir par tomber.
C'est même pas une comédie.
Ah, c'est récent.
La Lavande?
Non.
Une comédie très musicale récente.
Relativement très récent.
Ah, alors peut-être A Star is Born?
Ouais, tout à fait. Ah. Est-ce que tu peux me donner le rôle principal féminin de cette...
Lady Gaga.
Oui. Et c'est sorti en...
2016?
Plus...
2019?
Ouais, 2018. Tout à fait. Pardon. Ça fait un point pour toi. Deuxième citation... Quelque part, il y a un endroit où je trouve qui je vais être. Quelque part, ça attend juste d'être trouvé.
Ah, le magicien d'Oz?
Non.
C'est pas une comédie musicale.
C'est assez récent aussi.
Est-ce que tu peux répéter la phrase?
Quelque part, il y a un endroit où je trouve qui je vais être. Quelque part, ça attend juste d'être trouvé.
La La Land?
Bah tout à fait. Ah. Sorti en
2017?
Pas du tout.
2016.
Beaucoup plus vieux. Enfin, beaucoup plus vieux, j'abuse, mais...
14.
14, ouais.
La La Land, 2014?
Ouais, et donc... Le rôle féminin est
Emma Stone.
Super Emma Stone.
Je crois que c'est pas sorti en 2014, qu'on était encore au lycée en 2014. Je crois que c'est vraiment sorti en janvier 2017.
Alors peut-être en France alors, mais 2014 c'est sur l'affiche du film, donc je ne sais. Mais je pense que c'est 2014, parce que je me rappelle être allé voir en 2014.
Et le temps passe vite.
Nous sommes vieux. Prochain film, c'est beaucoup plus vieux. Et la citation est « En Amérique, tout est possible ».
Singing in the Rain, c'est possible?
Non.
Ça peut être dans à peu près toutes les comédies musicales américaines.
Franchement.
Ah,
West Side Story.
Tout à fait.
Ah, bah, ah bien.
Sorti en
61.
Oui. Et le premier rôle, celui de Maria.
Tu l'as vu récemment.
Oui, je l'ai vu récemment. Et elle est morte assassinée sur un bateau avec Christopher Walken qui était présente.
Et jeune en plus, je crois.
Oui.
43 ans, je crois.
Horrible, j'ai oublié le nom. Je sais plus.
C'est Natalie Wood.
Natalie Wood.
T'as quand même 2 points, c'est déjà pas mal. Prochaine station. J'ai failli dire le mot du film. N'en rêvez pas, soyez-le. Ou en anglais, don't dream it, be it. Avec mon superbe accent franchouillard.
Aucune idée.
Aucune idée ?
Non.
Personne ?
Non. Peut-être un indice ?
C'est sorti en 1975.
Ah, Phantom of the Paradise ?
Non.
Ah, ça aurait pu.
Si vous voyez le premier rôle féminin,
ouais.
C'est Susan Sarandon.
Ça ne parle pas.
Ça veut dire rien.
Non.
C'est de Rocky Horror Picture Show.
Ah oui. Moi, je pense qu'Adeline aurait trouvé.
Oui. Une grande fan du Rocky Horror Picture Show.
Prochaine citation. Et là, elle est longue. Le hasard, qui fait d'habitude si bien les choses, s'est trompé en semant des roses fanées au cœur de nos deux solitudes. En semant des roses fanées au cœur de nos deux solitudes.
Eh ben,
c'est beau. Hein.
On brille pas. Hein.
C'est beau, mais c'est français.
Ah. C'est beau, mais c'est français.
C'est français et c'est vieux.
Est-ce que c'est un Jacques Demy?
Je crois que c'est un Jacques.
Parapluie de Cherbourg.
Non.
Les Demoiselles de Rochefort.
Oui.
Je n'ai pas trouvé Demoiselles de Rochefort.
Sorti en.
Je sais pas. 60, 65.
63.
Plus.
7.
8.
7. 67.
Et 2-9.
Et ouais, 2. Ouais, j'ai pris l'autre personne.
Merde.
Parce que c'est trop évident, 2-9.
Sa sœur. Françoise d'Orléac.
Ah putain. Oui, Françoise d'Orléac. Donc, 2-1-1.
Comment ça? J'ai combien, moi?
Bah, t'en as un, toi.
Ah non, West Side Story.
Ah merde, c'est vrai.
Ah bah oui.
Ah bah oui, 2-2-1. Attends, j'ai oublié ce film. C'est beaucoup d'un coup. Prochain film. Citation assez longue aussi. D'abord, il y a le désir, puis la passion. Ensuite, le soupçon, la jalousie, la colère, la trahison. Quand l'amour va au plus offrant, la confiance est impossible. Et sans la confiance, il n'y a pas d'amour. La jalousie, oui, la jalousie te rendra démon.
Ce serait une comédie musicale sur la jalousie, j'imagine.
Sorti en 2001.
Ah, Moulin Rouge.
Moulin Rouge, tout à fait.
Oh là là, il est fort.
Très très fort. Bravo. Avec
Nicole Kidman.
Tout à fait. Oh, c'est très fort. 3-2-1. Prochain. Bien vu. Il reste 3 films. Donc tout est possible, tout est réalisable. Comme disait Grégoire. Merci. Est-ce que vous avez lu la nouvelle? Elle a des gros nichons et ils sont pas en plastique comme tous les autres. Ils sont plus gros que ceux d'Annette ? Il n'y a pas plus gros que ceux d'Annette.
Les clés de bagnole ?
Non.
Dommage.
Non, mais c'était un classique.
Est-ce qu'il est récent ?
Oh non.
Qui est Annette ?
Attends, tu peux répéter ?
Ouais. Toutes les citations ?
Oui, ouais.
Oh, juste à partir de nichons.
Elle a les plus gros nichons. Elle a des gros nichons et ils ne sont pas en plastique comme tous les autres. Autre personne, ils sont plus gros que ceux d'Annette ? Réponse de la première personne, il n'est pas plus gros que ceux d'Annette.
Je vois pas de personnage qui s'appelle Annette.
Oui. Puis c'est vulgaire pour un film vieux, donc.
Vieux quelle année?
78.
Ah oui.
Pas si vieux.
Non, j'ai pas.
New York est sorti en 78, mais ça m'étonnerait que ça
avec
soit ça.
Avec Olivia Newton-John?
Non.
Avec John Travolta?
Grise.
Ah, oh là là.
C'est décevant, je suis déçu. Je m'attendais à ce que ce soit extrêmement obvious pour vous, mais.
Non.
Et bah, tout est...
À partir de John Travolta, oui, mais avant ça.
Et encore.
Prochaine citation. Oh Vanda chérie, t'es belle comme un cœur dans ton fut collant, tartinée comme une poufiasse. C'est fou ce que j'aimerais vous avoir comme parent.
Avec la musique qui s'arrête pile au bon moment.
Magnifique, n'est-ce pas? Sorti en 1990.
Vanda.
Un poisson nommé Vanda,
je pense.
Non, pas du tout.
C'est pas vrai.
Non.
Pas que c'est une comédie.
Est-ce qu'on peut avoir un petit indice?
Avec Tracy Lords.
J'ignore qui est cette personne.
Avec Johnny Depp.
Une comédie musicale avec Johnny Depp. Est-ce que ça serait un film de Tim Burton?
Non.
Alors je sais pas non plus.
C'était Cry Baby.
J'ai pas vu.
Aucune idée.
Vous connaissez pas Cry Baby?
Non.
D'accord, bah comme quoi. On a pu trouver un truc sur lequel vous n'étiez pas des monstres.
Arrête de nous flatter.
Et le dernier qui va peut-être pouvoir mettre un gagnant sur cette session. Non, pas du tout, c'est toi, Nico, qui est en tête, à 3.
Tu peux égaliser.
Tu peux égaliser, effectivement. Et je t'accorderai la victoire si tu égalises.
Très bien.
Pourquoi l'absence est-elle si lourde à supporter? Pourquoi s'éloigne-t-il de moi?
Parapluie de Cherbourg.
Ouais, parapluie de Cherbourg. Au moment du train, non?
Pour te faire plaisir.
Au moment du départ.
Sorti en
63.
64 avec Catherine Deneuve, évidemment.
Évidemment.
Et l'acteur principal qui est mort le même jour que Belmondo, j'ai oublié son nom, mais qui est le seul rôle qu'il a vraiment, enfin son seul premier rôle, on va dire.
Faut vraiment réviser nos Jacques Demy, sinon je pense que.
Mais c'est très bien Jacques Demy, c'est trop bien.
C'est très bien Jacques Demy, je suis d'accord. Bah, merci Victor.
Bah, je vous en prie.
C'était une très belle idée de jeu. Et alors, il nous reste encore une demi-heure d'émission. Je crois qu'une des recos dont tu veux nous parler, Louis, c'est un podcast, donc je propose que tu présentes ce podcast pour qu'ensuite on enchaîne sur un débat.
Bah, très bien, oui, en effet. J'ai une recommandation à vous faire de podcast, c'est le Mousecast numéro 4. C'est un podcast qu'a lancé il n'y a pas longtemps Mehdi Maizi. Et dans ce numéro 4, il reçoit Tales from the Click, donc il reçoit Jean-Baptiste et Guillaume, les deux membres de Tales from the Click. C'est 1h05 de discussion autour du cinéma. Durant la première demi-heure, on revient un petit peu sur le parcours donc, de Jean-Baptiste, de Guillaume, sur la naissance de Tales from the Click, les formats de la chaîne, le lancement véritablement de la chaîne. Mais déjà, dans ces 30 premières minutes, il y a un amour du cinéma qui transpire, plein de discussions très intéressantes qui viennent s'immiscer un peu dans ces deux parcours de vie. Et puis, après ça, c'est des discussions beaucoup plus libres, beaucoup plus générales autour du cinéma. Et tout au long, moi, je trouve qu'il formalise, c'est ce que je t'ai dit, qu'il formalise des réflexions que l'on peut se faire, que l'on peut avoir, que ce soit sur la matérialité au cinéma. On en parlait un petit peu, du coup, avec le Marvel, tous ces films un peu sur fond vert, alors que parfois, on pourrait prendre des décors tout à fait naturels. Il y a une réflexion que moi, j'ai bien aimée, sur les contextes de visionnage. Parfois renoncer à voir un film parce qu'on se sent pas prêt à le voir. Lui cite l'exemple de Citizen Kane, il dit je l'ai jamais vu, mais parce que j'attends toujours le bon moment pour le voir. Et moi c'est pareil, il y a des films que j'ai jamais vu, des classiques que j'ai jamais vu, parce que je me dis j'attends pour ça de les voir en salle peut-être, ou d'être vraiment dans le bon mood pour apprécier ce chef-d'œuvre communément appelé comme tel. Et il y a enfin un thème que j'aime beaucoup, qu'ils élaborent un peu, enfin dont ils parlent tout au long du podcast, c'est la cinéphilie. Et je crois que c'est sur ça que tu veux nous lancer.
Donc oui, Louis, tu disais qu'il y avait des contextes pour voir les films. Et donc, on dit souvent que les films, en général, on les voit une fois, ça peut suffire. Et je sais pas, enfin, à la fois, je suis d'accord, parce que je pense pas qu'un avis sur un film peut changer complètement au deuxième ou au troisième visionnage. En tout cas, il peut évoluer et on peut plus apprécier un film lorsqu'on l'a vu une deuxième fois. Donc moi, je voulais parler de ce film pour commencer ce débat. Vous allez peut-être le reconnaître avec la bande-annonce.
You understand the meaning of the word foreboding? As in badness is happening right now.
Donc je sais pas si vous avez reconnu ce film. Lucas, est-ce que tu as reconnu ce film?
Cinéman de Yann Moix.
Mais non, malheureusement. Mais c'est un film. On n'a pas les images, on a que le son. Mais c'est un film qui peut transférer la beaufrie, j'ai envie de dire. Où c'est des gens qui ont des mulets, des moustaches. Il y a des grosses voitures, des hors-bords, des courses d'avions, des fusillades. Et c'est Miami Vice de Michael Mann.
Okay.
Alors je sais que tu adores.
J'aime bien Michael Mann, mais j'ai pas vu.
C'est un film qui suit directement Collateral, donc ça a été tourné 2 ans après. Et c'est un film où il y a des drôles d'avis dessus, tu vois, le monde cinéphile, j'ai envie de dire. Les gens qui adorent ce film, les gens qui le détestent. Donc la première fois que je l'ai vu, c'est parce que j'avais découvert Collateral juste avant, qui est un film que j'adore avec Tom Cruise, qui est assez. Enfin, je trouve que c'est un film, dès la première image, tu peux de suite l'aimer. Oui. Et Miami Vice, j'avais bien aimé, je n'avais pas compris, en fait, ce film. Alors que c'est un film qui est tout à fait banal en apparence, c'est des flics infiltrés dans un réseau de drogue, c'est tout, il n'y a que ça l'histoire. Et ça a une esthétique très bizarre, justement, avec des grosses voitures, des grosses courses de moto, etc., de bateaux, surtout, pas de moto. Et en le revoyant, c'est un film qui m'a fasciné. Genre vraiment, j'étais scotché devant l'écran, pourtant je l'ai regardé tard et tout. Dès le générique, c'est pas du tout le genre de musique que j'aime ou que j'écoute, hein. Vous avez reconnu peut-être Jay-Z et Linkin Park. Louis a reconnu. Et dès cette scène qui est dans une boîte, encore une fois, comme dans Collateral, il y a un truc où tu dis, je sais pas qu'est-ce qui me plaît dans ce film, et ça me plaît. Et c'est surtout que Michael Mann arrive à capter vraiment l'époque qu'il filme. Et c'est incroyable parce que c'est filmé en numérique, au tout début du numérique, avec un grain un peu dégueu. C'est les costumes, vraiment les musiques tout le long. Ça arrive vraiment à créer une atmosphère fascinante. Donc je suis content d'avoir pris le temps de revoir ce film pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Donc je trouve que la cinéphilie, ça peut être en partie ça. C'est pas forcément avoir des avis tranchés ou ne jurer que par un cinéaste ou l'autre. C'est aussi prendre le temps de réfléchir. Et surtout, je trouve que la cinéphilie, c'est pas forcément figé, qu'on pourrait le croire, et que ça évolue constamment avec le temps. Donc lui, c'est quoi pour toi être cinéphile ?
Ben moi, finalement, je suis assez d'accord. Quand je dis qu'il formalise des réflexions que je me fais de temps en temps dans ce podcast, ben là, c'est tout à fait le cas dans leur vision de la cinéphilie. Je la partage totalement. Il y a une phrase, tu l'avais relevée toi aussi en écoutant le podcast. Il disait « Un cinéphile, c'est quelqu'un qui peut prendre du plaisir devant Robocop 3 ou devant Miami Vice et enchaîner avec le salon de musique de Sayaji Trey. » Donc, pour moi, c'est vraiment ça, la cinéphilie. Prendre autant de plaisir sur un film un peu popcorn ou voilà qu'un grand film, un film d'auteur ou un film jugé comme classique. Et savoir, finalement, les savourer à leur juste valeur. Savoir pourquoi on va voir l'un, pourquoi on va voir l'autre, mais être capable d'autant les apprécier l'un que l'autre. Pour moi, c'est vraiment ça la cinéphilie, et dans ce podcast, c'est ce qu'ils disent. Et ils disent même, ils vont un peu plus loin, alors là, je sais pas si je suis tout à fait d'accord, à un moment, ils disent, pour moi, on est cinéphile à partir du moment où on a vu les films qu'on aime. Je pense qu'il faut pouvoir sortir de sa zone de confort, s'essayer à d'autres genres, d'autres types de films que ceux qu'on aime, parce que peut-être qu'on fera de belles découvertes, ou même pour savoir ce qu'on n'aime pas. Mais globalement, je suis quand même assez d'accord avec leur vision de la cinéphilie dans ce podcast.
Et toi, Lucas ?
Ouais, bah, le débat de la cinéphilie, c'est aussi un débat qui revient souvent quand on aime le cinéma, et je crois qu'il n'y a pas deux personnes qui ont une définition semblable. La mienne diffère de la tienne et surtout de ce que j'entends de celle de Tales from the Click. D'ailleurs, j'avais écouté le début et j'étais pas, vraiment pas d'accord sur tout, mais c'était intéressant. Mais oui, bah pour moi déjà, ce serait d'aller plus loin que le simple visionnage du film, c'est-à-dire de réfléchir à pourquoi on aimait, pourquoi on n'a pas aimé, lire des trucs, s'intéresser aux acteurs, à leur parcours et surtout aux cinéastes. Et puis il y a autre chose, c'est aussi considérer le cinéma comme un art vraiment, plutôt que uniquement comme un divertissement, ce qui le distinguerait un peu de la cinéphagie, je sais pas si je crois que le terme existe, mais qui est là pour le coup, et je suis cinéphage, hein, c'est pas du tout un reproche, mais c'est vraiment juste s'empiffrer de films comme un glouton parce qu'on en a besoin, ce besoin d'image, alors que le cinéphile est, je pense, quasiment toujours un cinéphage, mais qui réfléchit à son appétit
et qui le fait de façon tout à fait naturelle, parce qu'il porte un amour, bah il y a Philly hein, dans le mot cinéphile, qui porte un amour pour le cinéma et qui le fait par pur désintérêt, à part pour son intérêt à lui, alors que le cinéphile qui va aller qui n'est pas forcément du coup cinéphile, qui va constamment aller chercher plus loin, etc., mais peut-être pour impressionner ou pour dire « Ah bah j'ai vu ça, j'ai vu ci », mais qui finalement va le faire avec un certain intérêt de pouvoir en parler de façon un peu grandiloquente, un peu hautaine, lui ne va pas être cinéphile parce qu'il porte pas un véritable amour presque désintéressé pour le cinéma et pour tout ce qu'il y a autour et autour des films, et tout ce qu'on peut en effet essayer d'aller chercher après avoir vu un film.
Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec vous deux. J'ai envie de poser une question un peu à Augustin Trapenard. Et à vous, d'où remonte votre amour du cinéma ?
Moi, moi, le truc, c'est qu'il est assez récent. En fait, c'est presque à mes 18 ans. Ouais, c'est ça, c'est juste après le bac. En fait, en prépa, j'ai rencontré Thibaut Fajal. Il se reconnaîtra, je l'ai déjà cité dans la dernière émission, parce que c'est lui qui... l'avant-dernière émission, parce que c'est lui qui m'a donné le goût des films d'Herzog. Et en fait, je l'ai rencontré, lui est cinéphile, lui est un grand cinéphile, et c'est lui qui m'a initié à cet amour du cinéma. Avant ça, j'allais seulement voir quelques films des sorties récentes au cinéma, mais j'avais pas d'intérêt particulier pour les films classiques, les films anciens. Vraiment, j'allais un peu au gré des sorties qui me plaisaient, mais sans plus. et sans ressentir de véritable amour pour cet art qu'est le cinéma. Et lui, il m'y a vraiment initié. Je me souviens, bah en fait, on allait faire des cycles chez lui. Il me dit, attends, ça, je vais te faire aimer tel réal, je vais te faire aimer tel thème dans le cinéma. Et en fait, on allait chez lui, on prenait des bières, on faisait une nuit blanche et on se lançait un cycle avec des DVD qu'on allait emprunter à la médiathèque. Et il avait tout plein d'anecdotes, tout plein de réflexions à me distiller un peu au cours de la soirée, entre les visionnages. Et c'est vraiment de là, donc assez récent, mais d'une façon assez intense, que m'est venu l'amour du cinéma. Et à partir de là, j'ai commencé moi-même à aller, donc sans lui, chercher des films à la médiathèque, sur les plateformes, etc., pour me refaire toute cette culture que je m'étais pas faite avant. Et pendant quasiment 2 ans, de mes 18 à mes 20 ans, je regardais quasiment un film par jour, parce qu'il fallait, et parce que parce que j'en avais envie. Je me refaisais toute cette culture cinématographique que je m'étais pas faite avant.
Toi, Lucas?
Augustin, écoute, moi, il y a eu un...
moi, il y a eu un... le petit Lucas.
Bah, moi, il y a eu un premier choc, on va dire, en cinquième. Et puis après, c'est revenu beaucoup plus tard, mais où j'avais un prof d'art plastique qui s'appelle Monsieur Barbet, qui lui ne se reconnaîtra pas parce qu'il ne nous écoute pas. J'espère qu'il a encore envie, surtout. Parce qu'il a... Non, parce qu'il a eu quand même une bonne idée qui a été de... quand même prof d'art plastique au collège en 5ème, c'est pas simple, ouais. Et il nous a fait regarder Psychose, quand même faire mater Psychose, même si c'est un film des années 60, il y a quand même une certaine violence en 5ème, faut le faire. Et ça m'a c'est toujours un de mes films préférés, largement dans mon top 10 voire top 5, pour moi un film parfait, et qui m'a scotché du début à la fin. Je me souviens que je foudroyais du regard mes camarades qui osaient parler devant ce film à côté, en leur disant de la fermer, ce que je ne fais jamais normalement, enfin, pas me permettre de faire ça. Et donc, après ça, évidemment, regarder quelques Hitchcock et tout ça, mais c'était pas encore de la cinéphilie, je pense. Et puis après, c'est revenu beaucoup plus tard, je pense, à la fac, où, je sais pas, après, c'est le hasard aussi, je me dis, bon, ça me plaît, ça me plaît de plus en plus, effet boule de neige, on regarde de plus en plus de films, et puis au bout d'un moment, on se dit, putain, c'est quand même de l'art, et je pense, la vraie bascule, c'est quand tu commences à te dire, à t'intéresser vraiment au cinéaste, au nom qu'il y a derrière le film plutôt qu'au film en lui-même.
Je pense que c'est vraiment à partir du moment où tu dis j'ai envie de regarder tous les films de ce cinéaste.
Et justement, c'est pour ça qu'on parlait de Paul Thomas Anderson, et c'est le premier cinéaste pour lequel j'ai fait ça, c'est-à-dire prendre toute une filmographie et la regarder d'un coup, on va dire un par jour, et dans l'ordre. Alors avec Paul Thomas Anderson, c'est facile, il n'y a pas beaucoup de films, et c'est des films qui sont toujours plaisants à voir. Tu vas pas faire ça avec un Bergman, par exemple. J'ai du plaisir devant les films de Bergman.
Ce que disait faire justement le gars de Tales from the Click.
Oui.
Vous avez que lui, ça a commencé justement son cinéaste préféré, c'est Bergman. Mais oui, c'est compliqué.
Mais j'aime bien Bergman aussi, mais tout regarder d'un coup, c'est, pour moi, c'est pas possible. Mais j'ai commencé donc avec Paul Thomas Anderson, puis est venu, je me souviens, James Gray, puis les Français, du Piala, du Kechiche, du Clouseau. Souvent des filmographies assez restreintes en nombre, je veux dire. Mais qui te permettent comme ça de voir vraiment ce qu'est la vision d'un artiste tout au long de sa vie.
Puis t'as raison de parler d'effet boule de neige, en fait c'est ça, tu vois un film qui te donne envie d'en voir un autre, soit du même réal, soit sur le même thème, et ainsi de suite.
Tu te fais ton petit chemin comme ça.
Exactement. Et toi Nico, aussi loin que tu puisses remonter.
Moi c'est marrant, c'est un peu comme Lucas, c'est plus un choc initial déjà, qui était de voir Inception. Alors c'est moins glorieux qu'un Hitchcock peut-être, oui encore, c'est moins glorieux qu'un Hitchcock, mais justement je fais pas de... Il n'y a pas d'hiérarchie dans le cinéma. Et si,
quand même.
Si. Non, ouais. Il y a pas. Non, il y a des réactions dans le cinéma. Il y a pas de.
On va pas lancer un débat dans le débat.
Il y a pas de mauvais film pour commencer à s'intéresser au cinéma.
Voilà,
ça que
oui, bien sûr.
Oui, évidemment, Hitchcock est supérieur à Nolan. Ça fait pas de. Désolé, même si j'aime beaucoup Nolan. Et donc, ouais, ce film Inception, donc j'ai vu quand il est sorti, donc en juillet 2010, si je ne m'abuse, où ça a été pareil que Psychose, genre un choc où vraiment tu te dis. Déjà, je suis allé le revoir le film, enfin avec mes parents du coup. Est-ce que j'étais quand même relativement jeune, et surtout ça m'a donné envie de m'intéresser au cinéma de Nolan, de regarder les making of, ce que je faisais un peu avant mais pas non plus outre mesure, et de vraiment cette démarche de regarder les making of, de s'intéresser qui est derrière le film, de reconnaître qu'il y a vraiment un nom en fait derrière le film avec des thèmes tout le long et tout, etc., où ça a commencé donc vers cette époque. Et surtout après, dès que je suis rentré au lycée, genre j'ai commencé à avoir pareil que toi en fait cette cinéphagie, ouais, de vraiment vouloir regarder un film par soir. Et c'est une époque merveilleuse que tu découvres vraiment que des chefs-d'œuvre d'affilée. Tu te dis, bon, si je regarde tous les Kubrick, puis puis un Bergman et 14 Truffaut.
Je me suis fait tout un cycle pendant genre un mois ou deux mois sur le cinéma allemand des années 30. Pour vous dire à quel point parfois la cinéphagie peut nous emmener loin. Mais c'est fou parce que je pensais avoir eu ma cinéphilie un peu tard, l'avoir développée un peu tard, mais finalement je me rends compte que... Ouais. Mais bon, après on... Ouais, y a pas d'âge de toute façon.
Non, ça peut, c'est un virus qui peut frapper n'importe quand.
Ça vient quand ça vient. C'est comme la calvitie. Je sais de quoi je parle.
Waouh. Comment rebondir peut-être en lançant le jingle des recommandations. Enfin, ce n'est pas un jingle, c'est pour lancer ma propre recommandation. Oh, what a day! What a lovely day! Et donc vous avez sûrement reconnu, je ne sais pas, enfin vous n'avez peut-être pas vu, mais vous avez reconnu ce bruit de fureur qui est la bande-annonce de Mad Max Fury Road, qui en parlait de cinéphilie, et Mad Max c'est peut-être le dernier blockbuster qui m'a procuré une telle fascination au cinéma. Vraiment, c'était une séance qui est donc maintenant il y a longtemps, c'était en 2015, où je me rappelle en être sorti ébahi en me disant, mais c'est déjà fini, alors que les films, même des films qu'on aime, on sent des fois que c'est 2 heures ou 2 heures et demie. Là, je pensais vraiment que ça faisait qu'une heure, ça faisait déjà 2 heures, et c'était fini. Parce que c'est un film très condensé, très fou, et vraiment très prenant. Et donc tout ça pour lancer une reco, qui est un film encore, un livre, encore une fois, édité par Playlist Society. Là, c'est carrément un collectif, chacun écrit un chapitre, qui s'appelle Mad Max au-delà de la radicalité, et qui analyse chaque film de la franchise, donc il y en a eu 4. Et ça se lit vraiment très facilement parce que c'est un livre qui fait à peine une centaine de pages. Donc il y a 4 films, plus une préface, une conclusion. Donc il y a une vingtaine de pages par film. Et ça revient sur l'importance de chaque film dans le... Enfin, pas forcément dans l'histoire du cinéma, mais sur l'importance de chaque film qui sont de qualités diverses. Hein. Le 3 est assez peu aimé, par exemple. Mais qui arrive vraiment à pointer du doigt ce qui fait la force et la radicalité donc des films Mad Max. Moi, le 4 reste mon préféré. Mais là, c'est très bien d'avoir ces points de vue différents et surtout ces auteurs différents qui écrivent chacun et chacune sur un film différent. Donc, ils sont pas forcément d'accord. Ils ont pas forcément la même approche des films. Mais ça en fait un film très complémentaire, très digeste aussi. Et que je recommande tout à fait, donc, comme le livre précédent sur Soderbergh, des mêmes éditions que j'avais recommandé. Il y avait une citation que j'avais relevée qui définit très bien Mad Max Fury Road, c'est pour ça que je vous le recommande tout à fait, qui est « Je pense que les films ne devraient être que des images en mouvement accompagnées d'effets sonores ». Donc on n'est pas forcément d'accord avec cette citation, mais ça montre que vraiment Fury Road revient presque à une source du cinéma qui se base que sur le mouvement, et c'est ça pendant 2 heures ininterrompues. C'est un film d'action qui n'est en fait presque qu'une scène d'action et qui vraiment je recommande à tout un chacun de voir et de revoir. Donc, est-ce que vous avez des recos ou peut-être des contre-recommandations ?
Écoute, j'étais venu avec une super reco dont j'étais fier pour l'émission sur l'Inde, enfin sur le cinéma indien, mais donc, je la donnerai la prochaine fois, donc j'ai été pris un peu au dépourvu, et quand on est pris au dépourvu, on pense forcément à Gérard Depardieu, évidemment, enfin, c'est une logique implacable. Et il se trouve que récemment, j'ai vu Mammouth de Carverne et de Lépine, qui est sorti en 2010, que j'avais pas vu, et où Depardieu est un tout jeune retraité, mais à qui il manque des points, qui n'ont pas été déclarés, et donc il part avec sa mobilette chercher d'anciens employeurs à lui pour récupérer ses points. Donc forcément c'est une sorte de road movie en fait, où il y a plusieurs rencontres qui ont toutes leurs caractères. Il y en a certaines très drôles, d'autres très belles, d'autres beaucoup plus tristes, parce qu'il repense, il a des sortes de flashbacks, bref. Et non, j'ai pas grand chose à dire, à part que c'est vraiment d'une grande beauté sur un sujet qui a priori ne le porte pas, et juste ce plan où Gérard est sur sa mobilette avec
qui fait 2 fois la taille de la mobilette,
c'est ça, avec les bras en l'air et le soleil et le vent qui lui arrivent en pleine face, ça suffit.
Est-ce que tu avais une contre-recommandation aussi?
Oui, j'ai une contre-recommandation, et je crois que vous la partagez aussi.
Oui, j'ai regardé exprès, ouais. C'était en accéléré un peu.
Voilà, parce que, bon, Combini, qui est, voilà, on en pense ce qu'on veut. Mais il faut avouer que leur format qui s'appelait Vidéo Club est quand même sympathique, où on invite des réalisateurs ou des acteurs dans un vidéoclub, pour le coup, avec des vrais DVD.
Des derniers de Paris, en plus.
Un des derniers de Paris. Et où ils viennent comme ça pendant 20 minutes, ou 40 pour certains, je ne citerai pas qui, où pendant 20 minutes ils viennent glaner des DVD dans les rayons et parler de pourquoi ils aiment ce film ou pourquoi ils l'aiment pas. Donc c'est un sujet, un format sympathique. Sauf que leur dernier épisode, ou peut-être qu'il y en a d'autres qui sont sortis entre temps.
Non, c'est le premier, je crois, de ce nouveau format.
Ouais, mais de ce nouveau format, mais qui est quand même une déclinaison de Vidéoclub,
si j'ai
bien compris.
Ouais. Oui, oui.
Est avec Kian Kojandi. Là encore, on en pense ce qu'on veut. Moi, j'ai plutôt de la sympathie pour ce qu'il fait. Mais là, ça a été, on va dire, c'est une sponsorisation Amazon Prime Video.
Pas du tout caché. Hein.
Non, pas du tout caché.
Non,
non.
Assumé.
Et donc, les rayons DVD physiques ont été remplacés par des murs d'iPad.
Ouais.
Tablettes, c'est bien ça. Qui sont connectés à Amazon Prime Video. Et où Kian Kojandi vient comme ça recommander évidemment des films qui sont présents sur la plateforme.
Ouais. La moitié sont produits par la plateforme même.
Produits, et quand ils le sont pas, il vient quand même recommander Fight Club et Un jour sans fin, qui sont de très bons films. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand t'as la possibilité d'avoir un quart d'heure pour, je sais pas, essayer d'amener les gens vers d'autres choses, déjà des films français peut-être, mais bon ça. Enfin, quoi que. En fait, il fait ce qu'il veut. C'est ses goûts, ok. Mais c'est d'un vide. En plus, il raconte des choses tout à fait banales. Son argument, c'est avec mes potes, on a aimé. Oui, bon, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Ce que je veux dire, c'est que Kian Kojandi, j'ai vraiment, encore une fois, raconte lui, bloqué, j'adore ça.
Moi, j'ai vu son dernier spectacle, là, il y a une semaine.
Non, mais je
c'était excellent.
Il a un talent d'écriture et tout ça, il est tout à fait sympathique. Mais là, c'est juste sur cette vidéo, je ne comprends pas l'intérêt, si ce n'est, la finance, hein. En tout cas pour Combini, je sais pas si Kian Kojandi paye pour ça, je pense pas.
Non, mais il a des productions, il y a des productions Amazon
oui.
Prime
oui.
dans
ah,
lesquelles
oui.
il apparaît.
C'est ça, en plus,
qu'il recommande.
Il recommande LOL qui rit, bon, j'ai pas vu, mais ça a quand même pas l'air fou, mais c'est quand même fou, ça devient de l'autopromotion sur une vidéo qui de base est déjà sponsorisée. Mm. En plus, il raconte une anecdote sur Brad Pitt, sur Fight Club, qui apparemment est fausse avec sa dent.
Sur Retour vers le futur aussi, elle est fausse.
D'accord, tu vois. Oui, il recommande aussi Retour vers le futur.
Et surtout, ça montre le vide de cette. J'ai pas Amazon Prime personnellement, donc je vous dirai pas comment je regarderai Spencer. Mais ça montre bien le vide de cette plateforme qui apparemment est déjà mal faite esthétiquement. Et surtout, apparemment, il y a des films où vraiment il n'y a que la VF, ou alors certains formats, c'est pas restauré. Et ça montre que le problème des plateformes, c'est que ça met fin à une certaine curiosité, parce qu'on se contente de ce qu'il y a sur la plateforme.
L'algorithme de Prime Video, à ce titre-là, est très très critiquable.
J'ai l'impression Retour à la future, ouais, c'est bien, il y a les trois, bon, je les ai déjà vus 10 fois, mais...
Ouais, mais même l'algorithme, là, il est mal fait, mais même l'algorithme de Netflix, qui est très
bien
fait,
sûr.
Je trouve ça déplorable, en fait. T'engage à toujours consommer, pour le coup, des choses qui vont forcément te plaire.
Oui.
T'es gavé toujours la même chose, alors que dans un DVD, la sérendipité, tu peux tomber sur un truc sur lequel tu serais jamais tombé en temps normal.
C'est le cas aussi sur Netflix, hein, mais je trouve que c'est encore plus le cas sur Amazon, du fait de leur algorithme qui est encore un peu différent. Ouais. Mais bien sûr, sur Netflix, c'est le même schéma, bien sûr.
Après, c'est un catalogue type Netflix, il y a de très bons trucs sur Amazon.
Mais il faut le savoir à l'avance pour aller chercher et taper dans la barre de recherche. Ouais. Sinon, en effet, on tourne dans un vide un peu.
Et puis au-delà de ça, sur la vidéo, c'est sinistre, quoi. On est dans
c'est
une
glauque,
pierre, on se croirait dans un frigo où il y a des tablettes comme ça. Alors que l'intérêt comme de Vidéoclub, après j'imagine qu'ils vont revenir, je sais pas si c'est une vidéo un peu exceptionnelle ou j'en sais rien, mais c'était quand même de défendre encore
le physique.
Et c'était bien. Donc il passe du coq à l'âne là d'un coup, en fait, il n'y a aucune transition. Wow, c'était bon, voilà, c'était le petit coup de gueule.
Est-ce que t'as un petit coup de cœur, toi, pour finir, Louis ?
Non, mais en parlant pardon.
Bon bah c'est fini.
Un coup de cœur, mais en parlant de coup de gueule, il y en a un qu'on connaissait bien pour ses coups de gueule un peu râleurs, c'est Jean-Pierre Bacri. Et moi je vous recommande le documentaire qui est sorti sur France 3 il y a quelques jours, qui s'appelle Bacri comme un air de famille. C'est pour les 1 an de la mort du regretté Bacri, à qui on avait rendu un hommage dans une émission précédente qu'on aimait tous beaucoup ici. Ce documentaire, il est fait donc d'extraits de films et de pièces, parce qu'on sait qu'il était également comédien de théâtre et qu'il écrivait des pièces. Il y a des documents d'archives, et puis surtout il y a des témoignages de ses amis. Il y a notamment Sam Carman qui est très touchant quand il parle de Bacri. Il y a Alain Chabat qui apporte toujours une petite touche d'humour qui est suffisamment bien sentie pour être présente dans ce documentaire. Et finalement, ces entretiens, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans ce documentaire, qui a une forme tout à fait classique, mais qui fait plaisir de voir, parce qu'on se rend compte que derrière la caricature du grincheux, du râleur, comme on connaissait Jean-Pierre Bacri, bah, c'était un homme bon et un homme particulièrement aimable, plein de convictions aussi, mais quelqu'un de finalement, derrière les caméras et pour ses amis, pour les gens qui le connaissaient vraiment personnellement, quelqu'un de très agréable, de très touchant. Et juste pour rester un peu sur France Télévisions, je vous recommande sur la plateforme France TV ce qui s'appelle Voyage à travers le cinéma asiatique. Et France TV propose de voir ou de revoir 10 classiques du cinéma asiatique. Donc on y retrouve notamment Mother de Bong Joon-ho, Afterlife de Kore-eda, ou encore Chungking Express de Wong Kar-wai. C'est du streaming, c'est gratuit, donc faut en profiter.
La plateforme France Télé, enfin la partie cinéma, il y a beaucoup de très bons films.
Très bien développé, ouais. Et les thématiques sont assez intéressantes. Ils essaient de thématiser ça de façon très intéressante.
C'est un bon contre-pied à Amazon, du coup. En plus, c'est français.
Bah oui.
Ils payent leurs impôts, ils n'exploitent personne.
Et c'est tout à fait gratuit.
Nous qui les payons.
Oui, c'est vrai. Et c'est gratuit, et surtout, c'est un vrai catalogue.
Et pour le coup, voilà, comme je dis, il y a un travail d'édito très intéressant. Et toi, Nico, une petite reco?
C'est vrai que j'ai des recos. Oui, j'avais recommandé Mad Max au-delà de la radicalité. Et j'avais une autre reco qui est encore un livre. Et qui tout simplement il s'appelle Hong Kong Action, le poing, le sabre et le fusil. Parce que tu parlais de cinéma asiatique. C'est un livre écrit par Marvin Montes qui anime notamment le podcast HK Cast, qui est assez sympa. J'ai écouté un épisode sur Polystory. Et donc ce livre, ça revient en 150-200 pages sur l'histoire du cinéma hongkongais, sa spécificité. Et c'est bien parce que c'est des petits chapitres qui reviennent sur des genres du cinéma hongkongais, des périodes du cinéma hongkongais, qu'un cinéma au final qui a duré 50 ans, quoi, parce qu'il est mort actuellement, vu qu'il y a la Chine qui a repris Hong Kong et que tous les films hongkongais sont de facto chinois continentaux, donc censurés. Et c'est vraiment né à partir des années 60, quoi, le cinéma hongkongais. Et ça montre toute la richesse de ce cinéma, qui est un cinéma que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai revu quelques films, j'en ai découvert surtout pas mal grâce à ce livre.
Et je crois qu'à la fac, t'avais un cours justement sur le cinéma hongkongais.
Sur le cinéma hongkongais, qui était déjà une très bonne porte d'entrée, avec Frédéric, mon voisin, s'appelait le prof, qui était un excellent prof. Et donc là, c'est le premier truc que je savais déjà grâce à ce cours. Mais je trouve que c'est une excellente porte d'entrée vraiment pour découvrir la richesse de ce cinéma. Et donc des films tels que ceux de John Woo ou Jackie Chan, etc. Donc voilà, je recommande tout à fait. Et c'est disponible surtout sur leur site internet, car c'est un petit éditeur. Et bien, on aura tenu 1h30 avec toutes ces improvisations, hein, mine de rien. On vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. On espère que ça vous aura plu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, @vitamine-ciné. Et sur toutes les plateformes de podcast, surtout. Donc sur le site de Radio Campus Paris, évidemment. Ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, tout ce qui est indépendant, ce qui n'est pas indépendant. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver tout le temps, nous écouter quand vous voulez, ou nous réécouter. N'hésitez pas à laisser des avis positifs. Tous les podcasts disent ça, mais apparemment ça permet de faire découvrir le podcast à de nouvelles personnes. On vous remercie, et à la place du générique de fin, on va s'écouter un morceau que tu crois que tu peux nous présenter, Louis.
Oui, c'est un morceau de Marc Alifé, c'est présent dans Mes Frères et Moi, dont on a parlé tout à l'heure, et qui m'est resté en tête pendant la semaine qui a suivi mon visionnage du film, donc voilà, on va se quitter là-dessus. À très vite.
À très vite, salut. Rendez-vous le 6 mars prochain.